Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans le podcast. Nouvel épisode numéro 187 aujourd'hui. Et j'ai encore une fois un invité, je dirais plus qu'un invité parce que c'est un patron. Oui, il donne chaque mois une petite somme sur Patreon pour soutenir le podcast. Et donc je dis bonjour à Thibaut.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Ça va, bien, en congé, donc on profite.
Bon, je continue mon côté international, j'étais en Suisse avec John la semaine dernière, aujourd'hui avec toi en Belgique. Je t'avais invité sur le podcast, j'avais lancé mes invitations au moment de Noël, hein, je crois, je t'avais envoyé une petite vidéo pour te souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année, et je t'avais dit je voulais qu'on parle photo sur le podcast, parce que dans ma tête, t'es vraiment associé à la photo, au photographe, comment on peut dire, éclairé, comment tu te définis en fait, et comment tu te présenterais en fait, tout simplement.
Comme un photographe averti. Je me considère pas du tout comme un professionnel, loin de là. Mais j'ai dépassé un peu le stade de l'amateurisme, donc je dirais oui, comme un passionné, plutôt.
Ah ouais, un passionné qui a eu... j'ai l'impression que tu as eu beaucoup de matériel et que tu n'en as plus beaucoup.
J'ai en deux phases, en fait. Donc, j'ai commencé... Donc, si tu veux, j'ai acheté mon premier boîtier un petit peu avant de partir vivre à Montréal, parce que je voulais simplement faire comme tout le monde et garder un souvenir de toute cette année-là. Et en fait, j'y ai pris goût. Et donc, petit à petit, j'ai développé ma technique. J'ai pris connaissance un petit peu des bases qu'il fallait. Et en rentrant de cette année-là, j'ai revendu donc mon hybride pour un boîtier réflexe, pour essayer d'aller un peu plus loin dans la pratique, avoir plusieurs objectifs. Et petit à petit, en fait, il y a à peu près 6 mois, j'ai revendu tout mon matériel en voulant tenter la démarche d'utiliser que des smartphones avec différents accessoires. Et j'en reviens un peu, là j'ai pour projet de racheter un boîtier, parce que même si les téléphones font d'excellents appareils photo de poche, on n'est quand même pas au niveau technique ni au niveau qualité d'un bon boîtier réflexe et d'une bonne optique.
Ouais,
et donc voilà, j'en reviens un peu de...
Ouais, c'est le sujet qui m'intéressait parce que effectivement, alors moi je suis un peu comme toi. Moi je fais beaucoup de photos avec l'iPhone et j'ai même dit à une époque que je pourrais tout faire à l'iPhone, mais j'ai quand même, tu vois, ça fait quelques jours, j'ai ressorti mon hybride Sony. Voilà, il y a des phases en fait. Par moment je le ressors, par moment je le rentre. Qu'est-ce que tu dis toi qui, dans quel cas tu penses franchement là que tu penses te rééquiper, tu dis bon le smartphone c'est bien mais ça a ses limites.
Honnêtement, je reste convaincu que le smartphone est pour monsieur madame tout le monde le meilleur appareil photo qu'on puisse avoir, parce qu'on arrive à des photos de très très bonne qualité et qui peuvent vraiment se faire imprimer et trouver dans un cadre dans le salon. Le souci, c'est qu'on est limité techniquement, en fait, de par le capteur et de par les optiques. Et donc, forcément, quand on veut pousser un peu plus loin sa technique et avoir, par exemple, des plus longues focales ou faire des plus belles photos de nuit, d'office, le capteur va être un peu limité. Et à ce moment-là, c'est surtout dans cette pratique-là, je veux dire, plus poussée de la photo, où on va se retrouver un peu limité par simplement par la technique, en fait, pas par la qualité forcément de la photo, mais juste par la technique, parce qu'on est sur un smartphone, donc le capteur va être plus petit, il y aura moins de luminosité, on peut pas forcément mettre des filtres, enfin il y a toute une série de choses qu'un boîtier classique peut faire, quoi. Mais dans ma pratique, allez, je vais dire de la photo, 85% du temps je vais la faire au smartphone, parce que je l'ai en poche, parce que c'est des instants de vie, parce que c'est une petite vidéo et que voilà, il est à portée de main et que c'est plus facile. Mais je me dis en promenade, en week-end, en vacances ou quand j'en ai envie, avoir un boîtier réflexe avec quelques optiques, ça peut redevenir cool en fait.
Ouais, il y a des choses. Bon après, moi il y a des choses. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal à faire avec un smartphone. Hein. Je sais pas si t'as tenté de faire de la pose longue, des choses comme ça sur avec ton smartphone.
Pas encore. Là, j'attends un accessoire de chez Moment, qui est une marque canadienne, américaine. Ouais, je sais plus, bref.
Ouais.
Et en fait, ils ont fait. Donc, j'ai toute une série d'optiques pour l'iPhone de cette marque-là. Et ils ont sorti un adaptateur de filtres, justement, ou pour pouvoir mettre des filtres à densité variable ou des filtres ND. Et justement, en fait, ça, c'est l'objectif. Je vais essayer ça. Comme je vais pouvoir un peu réguler la quantité de lumière qui va rentrer dans le capteur via ce filtre-là, je vais essayer de la pose longue un peu pour justement voir si ça devient faisable avec je veux dire, un smartphone, peu importe le smartphone en fait. Je pense qu'ils se valent tous plus ou moins selon la catégorie, quoi.
Ouais. Alors justement, t'as quoi en ce moment comme smartphone? Parce que je sais qu'il t'est arrivé une petite mésaventure.
Ouais, je me suis fait piquer mon iPhone 10. Et c'est toujours un petit peu douloureux d'en parler. Donc j'ai repris un iPhone 8 Plus parce que je reste foncièrement attaché à l'iPhone. Et en parallèle, pour un site pour lequel je travaille, je teste actuellement un Huawei P20 Pro qui est vendu comme le photophone de l'année. Donc je suis un petit peu en train de tester ça.
Le Huawei, c'est celui-là qui a trois
Ouais, c'est ça.
ouvertures, hein. Ouais.
Ouais.
Et alors, sur tes premiers avis, qu'est-ce que t'en retires?
Bah écoute, je viens de mettre ma carte SIM dedans ce matin, juste avant qu'on enregistre ça, donc je peux pas encore donner mon avis. Ça a l'air sympa, d'après les reviews que j'ai vues, ça a l'air cool. Il faut que je teste un peu. Mais non, l'iPhone 8 Plus reste un excellent appareil photo. Enfin, je l'utilise beaucoup. Tout mon fil Instagram, allez, tu prends les 40 dernières photos de mon flux Instagram, elles sont prises à l'iPhone, avec ou sans objectif. Ça dépend un peu de ce que je veux faire.
Ouais. Alors justement, tu parlais de Moment, hein, qui est cette marque. Je suis d'accord avec toi, je sais pas de quel pays ils sont.
Écoute, si je dis pas de bêtises, je pense qu'ils sont de Seattle, mais j'ai un
Ouais.
doute.
C'est le sentiment que j'ai eu. Puis en fait, je suis abonné à leur chaîne vidéo, à leur chaîne, et je regardais toutes leurs dernières vidéos sont sous la neige, dans le mauvais temps, dans des choses comme ça. Donc oui, pour moi, ils sont dans ce coin-là, dans cette zone-là. Et justement, qu'est-ce que tu penses de ces objectifs? Est-ce que ça vaut le coup d'investir pour ceux qui se posent la question? Parce que je crois que l'objectif, c'est 99 euros, hein, il me semble à peu près.
T'as une centaine d'euros par objectif. C'est des questions qui sont compliquées à répondre parce que la première réponse que j'ai envie de te donner, c'est ça va dépendre de ton usage. Tu vois, si moi je suis pour le moment, je suis dans une phase où le seul appareil photo que j'ai, c'est mon smartphone. Et donc oui, je trouve ça intéressant d'avoir. Donc j'ai trois objectifs de chez eux. Donc j'ai un grand angle. Donc l'iPhone de base, c'est un 28 mm. Le grand angle permet de descendre à 17 et donc d'avoir un champ plus large.
Ouais.
J'ai un téléobjectif et alors j'ai un objectif macro. L'objectif macro, il est clairement pas utile pour le commun des mortels, c'est juste parce que je voulais tester et que je m'amuse un peu en macro, mais c'est vraiment un usage particulier. Après, je pense que le grand angle et le téléobjectif sont des objectifs intéressants en photo et en vidéo. Donc, je dirais si votre seul appareil photo, c'est votre téléphone, oui, alors ça vaut le coup d'avoir quelques accessoires en plus parce que ça permet simplement, par exemple, il l'expliquait dans une dernière de leurs vidéos. Un des conseils qu'il donnait, c'est justement de changer la perspective de vue, donc via un objectif justement, et de ne pas d'office tout filmer ou tout photographier au 28 mm, et de pouvoir un petit peu jouer avec ça. Et donc si votre smartphone est votre seul appareil photo, je pense que ça vaut le coup d'investir un petit peu d'argent dans, surtout que c'est du très très bon matériel. Les lentilles sont de super bonne qualité, c'est de l'acier, enfin c'est vraiment ultra résistant. Et il n'y a pas du tout de distorsion dans l'image, ni de problème de problème de couleur, de colorimétrie. Et donc franchement, ça vaut le coup. Maintenant, je vais prendre l'exemple de ma mère. Si vous êtes comme ma mère et que vous faites 10 photos semaine au smartphone juste pour avoir des souvenirs de vos petits-enfants, non, ça vaut pas la peine d'aller claquer 250 balles dans ce matériel-là, quoi. Donc ça va vraiment dépendre de votre usage. Mais clairement, si vous y voyez un intérêt, si vous vous posez la question, c'est que vous êtes intéressé, donc oui, à ce moment-là, ça vaut la peine.
Ouais. Alors sachant que c'est vrai que eux, ça fait partie du moyen de gamme, hein, parce qu'il y a encore du plus haut de gamme, hein, au niveau d'objectifs, il y a des
Ouais.
marques encore plus chères que ça. Mais on a beaucoup d'entrées de gamme, hein. Moi, je sais pas si t'as eu des Holoclip, moi j'ai un objectif Pixter à la maison.
Ouais.
Alors le Pixter, je trouve que c'est la fixation, tu sais, c'est une espèce de pince. Il faut arriver à bien se mettre en phase d'objectif. Or, ça marche bien quand il met sur la webcam du MacBook Air parce que tu arrives à être bien à peu près en face, tu vois. Là, j'attends. J'ai une ils font comme Moment, ils font des coques maintenant, tu sais, pour qu'on puisse visser l'objectif dessus. Et je verrai si ça permet de mieux la centrer. Mais c'est un objectif qui est à, je sais pas, il doit coûter 29€, tu vois. Donc, il est pas du tout comparable dans le tarif. Mais c'est vrai que pour beaucoup, il y a une question. On se demande si ça vaut vraiment la qualité, le prix. Par rapport à la qualité de l'objectif. Et pour revenir, c'est vrai que sur ta remarque et sur la vidéo, je pense qu'on parle de la même. C'est le grand angle, hein, c'est pas le fisheye que t'as.
Le grand angle, ouais.
Ouais. Et là où il est très intéressant, et c'est vrai qu'ils m'ont fait tilter quand j'ai vu cette vidéo-là, puis j'ai testé après moi de mon côté, c'est sur tout ce qui est la vidéo. Pour se filmer en vidéo avec comment s'appelle l'objectif, j'ai perdu le truc là. Le capteur classique. Ouais. Enfin, de meilleure qualité. C'est vrai que le fait d'avoir un grand angle, tout d'un coup, ben, ça t'agrandit la perspective que t'as autour de toi. Et tout d'un coup, on arrive mieux à se rendre compte d'où t'es quand tu fais du vlog, quand tu fais de la vidéo, tu veux un peu montrer l'ambiance de là où t'es. Et, parce que moi, j'ai des, ma dernière vidéo, notamment sur, j'ai fait là sur mon annonce de marathon. Et à un moment donné, tu sais, je me filme avec cette caméra, et en fait, je me rends compte que j'étais jamais entièrement dans le cadre comme je voulais, quoi. Donc j'ai testé avec le Pixter d'un coup, qui lui fait un 0,4, donc je sais pas, on doit pas être très loin, tu vois, de la conversion moment. Et c'est vrai que tout d'un coup, même ça devient plus facile de cadrer avec avec un objectif comme ça, parce que quand t'es à bout de bras, c'est vrai que le 28, tu rentres pas forcément toujours dedans si facilement que ça, ou on voit pas ce qu'il y a autour, quoi.
Mais surtout qu'en plus. Sur l'iPhone, t'es forcément en 28 parce que quand tu passes en mode vidéo, il zoome dans le zone optique.
En plus, ouais.
Et donc t'es plus même sur un équivalent. Ouais, je pense que t'es sur un équivalent 35 mm. Donc clairement, en vlog, t'es pas dans le cadre, quoi. Enfin, si tu vas l'être, mais ça va être beaucoup plus compliqué qu'avec le 17 ou en plus le fisheye. Là, d'office, tu sais que t'es dans le cadre et tu peux monter le cadre derrière toi. Ça, c'est clair. Beaucoup en vidéo, je pense, le grand angle est intéressant.
Ouais. Après, le fisheye, c'est une utilisation particulière. Moi, je sais que j'ai un fisheye sur mon Sony. Je me suis énormément amusé avec ça, enfin franchement, mais ça fait plus d'un an, un an et demi, j'ai pas ressorti, tu vois, je trouve qu'on s'amuse beaucoup avec les fisheye, mais ça se voit quand même dans une vidéo, un fisheye, hein, ou dans une photo, ça déforme.
Ouais, ça déforme fort, ouais.
Alors que le grand angle, bon, s'il n'y a pas de déformation, c'est vrai qu'on est beau, on est bien mieux. Et donc le téléobjectif, lui, par contre, c'est une vraie question parce que c'est vrai que l'avantage, c'est que quelque part, c'est un zoom optique. Hein.
Oui, c'est ça. Donc en fait, l'avantage du télé, en plus les iPhones avec les deux optiques, c'est que donc t'as déjà une optique qui est plus grande que l'autre, qui est plus longue que l'autre. Et tu rajoutes ça, en fait, et tu deviens vraiment, t'arrives à l'équivalent d'un 85-90 mm, ce qui est une focale parfaite pour le portrait, en fait. Et donc, ça te permet d'isoler ton sujet sur des photos, tout en restant bien d'accord qu'on est sur un smartphone, donc on n'aura pas la réelle qualité d'un objet, mais ça te permet vraiment d'isoler ton sujet et de faire des beaux rendus sur des objets bien précis avec un chouette fou d'arrière-plan. Et donc ça devient intéressant. En vidéo, je t'avoue que je l'utilise très peu parce que je ne vois pas bien l'intérêt. Mais en photo, je l'utilise souvent, ça c'est clair. Tout pour faire des portraits de ma fille quand elle me regarde pas, parce qu'une fois qu'elle me voit, la seule chose qui l'intéresse, c'est d'attraper mon téléphone. Mais ça permet vraiment de dire mon sujet et d'avoir un chouette flou d'arrière-plan et de faire des chouettes photos qui vont plaire aux grands-parents et qui peuvent se retrouver tranquillement sur le frigo de la cuisine.
Ouais, surtout qu'en vidéo, ce que j'allais te dire, c'est qu'il y a un problème de stabilisation parce que tu augmentes le moindre bouger sur le smartphone, comme c'est déjà c'est pas lourd, hein, même si l'iPhone Plus est un peu plus lourd, ça reste quand même très léger. Donc le moindre mouvement que tu fais sur le smartphone avec l'objectif, le téléobjectif, tout d'un coup, ça devient rapidement mal de mer, hein, sur ces genres de
clairement fond. En vidéo si tu pars sur du téléobjectif, t'es obligé de passer par un stabilisateur.
Ouais.
Et sinon clairement ta vidéo est pas regardable, quoi.
Alors d'ailleurs, la question que j'avais, c'est que sur des objectifs Moment comme ça, donc t'as une coque dédiée à ton iPhone. Tu peux fixer l'objectif sur les deux objectifs ou que sur l'un?
Tu peux fixer sur les deux objectifs et alors ça qui est très intelligent, c'est que l'iPhone te permet pas de sélectionner l'objectif que tu veux. Et en fait, ils ont développé une app photo Moment. Et en fait, lui permet d'adapter l'objectif de ton iPhone à l'endroit où tu as mis ton optique Moment.
Ouais.
Et donc, tu peux vraiment sélectionner ce que tu veux. L'avantage, par exemple, aussi, c'est que tu peux prendre en gros ton téléobjectif d'iPhone, mettre ton objectif macro, et tu réduis encore la distance de mise au point pour vraiment aller au plus près du sujet, quoi. Donc, ça, l'application est très très bien faite. Ils l'ont bien pensé en vidéo comme en photo. Ils ont bien fait ça.
Ouais,
Et elle est
alors,
gratuite.
à dire en plus que vous n'êtes pas obligé d'avoir un objectif Moment pour l'utiliser, parce que moi j'ai fait beaucoup de
Non.
photos avec cet objectif, avec cette application-là. Bon, je m'en suis un petit peu détourné. Après, on peut le faire aussi, parce que finalement, c'est le x1, x2 sur l'application hein, qu'ils utilisent pour passer d'un objectif à l'autre.
Ouais.
Et je crois que si tu fais ça sous Alid ou d'autres applications, tu as à peu près le même type de fonctionnement, mais ça serait à vérifier exactement sur le. Parce que je suis pas certain que ce soit exactement le même fonctionnement, quoi, très précis.
Je peux pas te dire parce que j'ai pris l'habitude, moi, dès que je fixe un objectif moment, j'utilise l'application en fait.
Ouais.
Ouais, parce qu'elle permet de shooter en RAW, donc moi je peux les importer dans Lightroom si je veux. Et en plus de ça, ben voilà, j'ai pris l'habitude et donc je peux gérer plus facilement mes objectifs. Et pour le reste du temps, je fais ça à la caméra classique de l'iPhone, que je déverrouille directement via la caméra pour prendre une photo rapidement. Donc, j'ai pas testé les autres applications. Mais je pense que, comme tu dis, Alid l'a intégré dans ses options.
Je pense hein, que le x1 x2 correspond à peu près à la même chose. Bon, ça sera à vérifier. Je t'avoue, moi j'ai pas. Moi je sers très très peu en fait du deuxième objectif sur l'iPhone. En fait, il s'en sert tout seul, c'est quand je fais du mode portrait. Sinon, c'est vrai que moi, bon, en vidéo, déjà, il est pas stabilisé, puisque moi j'ai un iPhone 7 Plus. Donc le deuxième objectif n'est pas stabilisé, alors que sur le 8, il doit l'être. Hein.
Oui,
Donc,
c'est franchement agréable.
ouais, ça j'imagine surtout en plus avec ces histoires de mouvements qui sont vraiment amplifiés dès que tu rajoutes de la focale. Et moi en plus, il y a un truc, c'est que comme j'utilise un DJI Osmo Mobile, là où je pourrais l'utiliser, et c'est un cas où j'utilise, toi, le téléobjectif sur mon iPhone 7, c'est que comme il n'est pas stabilisé, il vient pas s'embêter ou enfin contrarier l'Osmo Mobile. Parce que comme l'Osmo stabilise et que l'iPhone stabilise aussi de son côté, on avait des mouvements, tu sais, une sorte de pompage à une époque. Alors les applications type Filmic Pro, hein, je donne l'astuce pour ceux qui écoutent, Filmic Pro a intégré ce fonctionnement-là, c'est-à-dire que on est capable de. Eux, ils arrivent à gérer et à désactiver, tu vois, la stabilisation, ou je sais même plus comment ça se passe, parce qu'au début, on disait que c'était pas désactivable. Et sinon, le deuxième objectif, comme moi, il n'est pas stabilisé, et ben quelque part, ça me supprime ce problème-là, tu vois. Mais ça me rajoute le problème que je suis pas toujours dans le cadre. Donc c'est là où des fois, bah effectivement, on a besoin d'avoir des objectifs complémentaires ou des petites variations. Sinon sur Moment, je recommande effectivement par contre. Donc toi, tu dois être abonné aussi leur chaîne YouTube, hein, qui est quand même, je trouve,
Ouais,
assez sympa, quoi.
c'est clair. Ils sont. Ça donne. Moi, il n'y a rien à faire. Déjà, je trouve que leurs conseils sont vraiment cool. Et moi, chaque fois que je regarde une de leurs vidéos, j'ai envie de prendre mon téléphone et d'aller filmer et faire des photos, quoi.
Ouais.
Ils sont assez inspirants.
C'est des gars qui sont vraiment passionnés par leur truc, puis ils sont sympas en plus, je trouve qu'ils sont des ils ont ouais, moi j'aime bien leur tête en plus, et puis ils sont toujours. Alors des fois je comprends pas tout ce qu'ils racontent, mais je trouve qu'ils font toujours des bonnes idées, des plans sympas, etc. Et c'est assez agréable. Et en plus, alors c'est à signaler d'ailleurs aussi, c'est qu'ils sont pas que sur iPhone, hein, puisque leurs objectifs sont
Non, non.
compatibles avec d'autres téléphones. Et donc il y a même des vidéos avec le Pixel 2, je crois, avec le
Ils
dernier
ont fait
Samsung, etc.
C'est ça, ils ont fait les. Mais pour le moment, ils n'ont pas une grande gamme. Ils ont les iPhones, les Galaxy S et Note, si je dis pas de bêtises, les Pixel, mais ils ont prévu de se développer un peu. Et ils ont fait pas mal de vidéos où ils comparent les deux. Ouais, c'est là que tu te rends compte en fait que quand tu es dans le haut de gamme des appareils photo, il n'y a pas énormément de différence. Moi, j'ai juste été vraiment bluffé par le Pixel 2. Je trouve qu'il ressort quelque chose d'assez monstrueux de cette caméra, qui lui n'a qu'une caméra. Mais dans l'ensemble, quand tu vois leurs vidéos, tu te rends compte que même en film, en vidéo, t'as très peu de différence entre les smartphones.
Ouais, alors j'avais même vu une vidéo il n'y a pas longtemps de. Alors je sais plus, je crois que c'est Sarah Dietschy qui avait fait une vidéo sur. Tu sais, elle fait des photos prises à l'iPhone et prises au réflexe. Et elle faisait tester aux gens dans
Ouais.
la rue, elle leur demandait laquelle était laquelle. Et moi, sur toutes les photos qu'elle passe, je pense que je me trompe quasiment systématiquement, et j'ai même été surpris sur des photos d'iPhone, le détail des cheveux du mannequin qui était dans la photo était plus précis en apparence sur la photo iPhone que sur la photo prise au réflexe. Alors je sais pas les objectifs, ce qu'elle avait fait, tu vois, etc. Mais c'était assez trompeur dans le rendu, en tout cas.
Après, je pense que clairement, si tu prends, ben, elle filme, si j'ai pas de bêtises, au Sony. Si tu prends un Sony A7 Mark R2, R3, je crois qu'ils sont, avec un 28 mm et que tu prends l'iPhone, je pense que une fois que tu mets les photos en JPEG sur un écran d'iPad, les gens s'y trompent. Mm. Parce que on est arrivé à un stade où, à vue de nez, la photo de l'iPhone va avoir l'air, je dis bien l'air, parce qu'une fois que tu vas zoomer dans ton fichier RAW, les détails vont disparaître complètement sur l'iPhone. Mais après, la différence, c'est que si maintenant tu prends un 200 mm et tu fais une photo au loin et que tu essaies d'avoir le même rendu avec ton iPhone, là, tu verras une grosse différence.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Mais sur des photos au grand angle, je pense qu'on est arrivé à un stade où les smartphones sont vraiment, vraiment très corrects en termes de qualité et que beaucoup de gens voient pas la différence.
Oui, alors en plus, ils ont une caractéristique, c'est que comme ils font les réglages en automatique, on a souvent en plus des résultats qui sont plus réussis, ou en tout cas plus proches de ce qu'on espère avoir, hein, je dirais comme ça, avec le smartphone qu'avec son appareil, ou des fois quand on maîtrise pas certains paramètres, ou on essaye de jouer avec certains paramètres, on a des surprises, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut, ça bouge un peu trop, on a du bruit qui apparaît, on sait pas trop comment, etc. Alors que le smartphone, il essaye de faire au mieux, hein, par rapport à ce qu'il a. Et souvent, c'est quand même excellent, on va dire.
Ouais. Franchement, à part, parfois, tu vas avoir des soucis, c'est en basse luminosité, mais ça, c'est comme partout. Mais en bonne condition, clairement, le smartphone va faire les bons réglages et t'as pas à t'ennuyer, tu fais ta mise au point, enfin tu t'appuies sur l'endroit où tu veux faire ta mise au point, tu fais ta photo, il déclenche et tu vas avoir un résultat qui va être hyper agréable à l'œil, quoi.
Alors, pour continuer sur la logique photo, on disait donc tu prends tes photos donc avec ton smartphone, ton iPhone, tu shootes en RAW. Tu shootes tout en RAW ou comment tu fais ton choix?
En fait, t'as deux options. Donc soit je suis dans une photo, je vais dire du quotidien, j'ai envie de prendre un truc rapidement. Là, je vais déverrouiller l'iPhone sur la caméra, je prends une photo en JPEG et voilà. Soit je suis vraiment dans une optique, par exemple, je suis en train de visiter une ville et là je veux vraiment faire des photos. Et donc là, en fait, je vais tout shooter en RAW que je vais après importer dans Lightroom mobile. Comme ça, j'ai une synchronisation et je peux à ce moment-là, j'ai passé mon temps en fait à recréer des filtres, des presets, comme on dit, dans Lightroom. Et c'est à ce moment-là que je vais développer mes photos, mais en RAW d'office, ouais.
D'accord. Donc après, effectivement, tu as des presets qui sont... comment s'appelle, la suite créative sur ton ordinateur ou tu fais tout sur mobile?
Ça va dépendre de mon humeur. J'ai la synchronisation avec la suite sur le Mac. Et donc à ce moment-là, ça dépend un peu si j'ai le temps. Je vais commencer déjà à faire quelques retouches sur Lightroom mobile, même si je suis pas fan parce que je trouve que l'écran reste encore petit pour de la retouche photo. Mais ça fonctionne. Et sinon, je vais synchroniser avec Lightroom. Je vais rentrer à la maison sur le Mac et je vais ouvrir et je vais commencer à faire mon développement photo à ce moment-là.
Alors, avantage, c'est que toi, tu dois avoir la synchronisation des presets où tu peux avoir les mêmes presets sur l'ordinateur et sur le téléphone.
C'est ça. C'est ça en fait. Ouais, j'ai passé mon temps. Enfin, ça a été un peu compliqué parce que c'est pas pris en charge directement par Lightroom mobile. Donc il y a une petite astuce en fait. Il faut créer des images, n'importe quelle image. Moi, j'ai pris des carrés noirs avec le nom du preset. Et en fait, dans le Lightroom classique, il faut appliquer le preset et à ce moment-là le synchroniser avec Lightroom mobile. Et donc vous aurez une galerie d'images à ce moment-là où en fait vous faites un copier-coller des paramètres. C'est un peu complexe à mettre en place. Et vous les appliquez sur les photos que vous voulez traiter. Là, à ce moment-là, vous retrouverez directement les presets Lightroom. Maintenant, honnêtement, le plus simple, à mon sens, c'est directement de travailler depuis l'application. Moi, j'utilise beaucoup de presets Visco, donc VSCO.
Ouais.
Et de travailler directement avec l'application, c'est encore le plus simple. Vous prenez pas la tête comme moi à forcément passer par Lightroom. C'est parce que moi, j'aime bien retrouver mes fichiers RAW sur mon ordi quand je rentre. Mais je veux dire, vous faites vos photos avec la caméra de l'iPhone, vous les importez dans, ou même faites les photos avec le module photo de l'application Visco, vous appliquez vos filtres et votre retouche photo, vous exportez en JPEG et c'est réglé.
J'avais un doute, la dernière Creative Cloud, elle permet pas justement la synchro des presets quand même, même sur le mobile, il me semblait qu'il y avait des...
Je pense pas. Faudrait que je regarde, mais je pense pas.
Il me semblait que du moment qu'on était abonné, il me semblait avoir vu passer ça. Alors moi, je t'avoue que je fais partie de ceux qui. C'est pas que je sois allergique, toi. Je suis plus très fan, en fait, voilà, des produits Adobe, notamment sur ordinateur. Et j'ai beaucoup de mal à m'y remettre. Alors en plus, c'est même pas une question de tarif, parce que moi j'ai un tarif universitaire, tu sais, donc je peux avoir toute la suite complète pour vraiment pas cher, mais vraiment tous les logiciels. Et en fait, j'ai beaucoup de mal avec Lightroom déjà, malgré je reconnais la puissance, etc. Mais il me semblait, tu vois, avoir vu quand même que sur le, il y a une espèce, je crois qu'il y a une espèce de synchro qui arrive maintenant de certains réglages, ce sera vérifié. Parce que le, je me demande s'il n'y a pas eu quelque chose comme ça ou, à force de regarder les vidéos de Peter McKinnon, tu vois, je me demande si j'ai pas vu un truc passer dans le genre là.
C'est possible, j'avoue que je suis pas au courant. Après, je reviens sur ce que tu dis sur Lightroom, je suis assez d'accord avec toi, l'interface est, enfin, moi je continue à regretter que Apple ait abandonné Aperture, que je trouvais parfait.
Ouais, je suis d'accord.
Mais voilà, après c'est clair que en termes de retouches photo et de surtout de retouches photo en grande quantité, Lightroom est à mon sens ce qui se fait de mieux pour le moment. Et c'est le plus populaire, donc forcément on retrouve beaucoup de plugins, beaucoup de presets, beaucoup de tutos vidéo pour apprendre à le gérer. Mais clairement l'interface est pour moi l'interface est catastrophique, la gestion des dossiers est une sombre daube, je regrette honnêtement, je regrette vraiment ce que j'aime chez Mac, par exemple, tu vois, c'est que, par exemple, tu prends ta bibliothèque photo, c'est un fichier.
Oui.
T'as un fichier qui fait 150 gigas pour ma part, et tout est à l'intérieur. Tu veux le déplacer, ben, tu prends ton fichier, tu le déplaces, point. Que Lightroom, c'est une arborescence à la Windows, où tu vas te retrouver avec un dossier racine, des sous-dossiers, des embranchements, des machins, des bazars. Et donc, quand tu dois exporter un catalogue, c'est une catastrophe. Et donc, je suis pas forcément fan de l'interface, mais j'ai pas trouvé mieux pour le moment. Et donc en plus ben voilà, j'ai pris mes habitudes, j'ai mes presets, j'ai mes réglages, j'ai mes catalogues, etc. Mais voilà, demain Apple me dit qu'il remet Aperture au goût du jour, je re-switch les yeux fermés sans me poser de questions, quoi.
Je suis assez d'accord. Moi Aperture, je continue à l'utiliser d'ailleurs, non pas pour stocker sur la longue durée, tu vois, mais pour faire des pré-tri de photos des fois quand j'en ai beaucoup à importer. Je trouve quand même qu'il est rapide et puis il me fait un export rapide aussi. J'ai mes habitudes dessus, voilà, j'ai des beaucoup et c'est vrai que c'est une application qui ils auraient pas dû abandonner à mon sens.
Non, bah non.
Elle était beaucoup plus simple. Et puis bon, elle remplissait un vrai manque, hein, qui pour les photographes professionnels ou amateurs éclairés, on a besoin d'avoir un moyen de gérer des photos en grande quantité.
C'est ça.
Et c'est pas Photo qui le fait.
Non, mais non, tout comme t'as iMovie et Final Cut, t'avais Photo pour le grand public et Aperture pour ceux qui veulent aller plus loin. Et à mon sens, c'était bien comme fonctionnement. Et je n'ai jamais compris pourquoi ils ont laissé tomber Aperture, je comprends pas. Mais bon, après.
Ouais, c'est comme ça. Même les modules, ouais. Hein, je sais pas si t'as des, moi j'ai testé les modules externes sur, qui se greffent sur Photo, tu vois, genre Polar et compagnie.
Je suis pas fan.
Ouais, ça non plus. Enfin, au bout d'un moment, toi, je les utilise plus. J'ai vu qu'il y avait une mise à jour ce matin. Je l'ai même pas faite. Ouais.
Mais de toute façon, vas-y.
Non, il manque un truc. Hein, comme on disait, il manque un truc. Hein.
Mais déjà, il manque simplement une des fonctions que j'utilise le plus dans Lightroom et que j'utilisais le plus dans Aperture, c'est le fait de pouvoir marquer une photo comme retenue ou comme rejetée, tu vois.
Oui.
Et donc, par exemple, quand je reviens d'un, je prends un exemple. Je suis parti à Paris il y a pas longtemps avec ma femme. Je suis revenu, j'avais à peu près 600 photos. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est qu'une fois que je suis dans Lightroom, ben, je les passe toutes en revue et je désélectionne celles qui sont floues, celles qui sont mal cadrées, celles où j'en ai 14 fois la même et que je vais en garder qu'une. Et en fait, je fais deux phases de tri. Mmh. Et une fois que je suis arrivé à la fin de ces deux phases de tri, ben, je vais simplement développer les 40 photos qui me restent.
Ouais.
Dans Photo, je peux pas faire ça. C'est impossible. J'ai pas d'option pour pouvoir marquer mes photos. Donc, il faut que je les efface au fur et à mesure. Mais parfois, ça m'arrive tu vois, une fois, bah, je vais faire une première phase de tri, je vais laisser passer un jour ou deux, je vais tout repasser en question. Et une photo que j'avais marquée comme pas retenue, bah, je vais me dire, ouais, finalement, il y a moyen d'en faire quelque chose, je vais la remarquer comme retenue. Que dans Photo, c'est pas possible.
Ouais.
Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'utilise Lightroom ou que j'utilise Aperture, c'est qu'il y a des outils réellement prévus pour les photographes, entre guillemets, et pour pouvoir gérer, de la photo en grande quantité. Enfin, tu vois, moi, par exemple, avant, j'ai fait quelques photos de mariage. Mais avec Photo, c'est impossible de gérer ça. Faut même pas y penser, ouais. Quoi.
C'est clair.
Et donc, Aperture me manque et je ne comprends pas pourquoi Apple a décidé d'abandonner ce programme, mais on ne le saura jamais de toute façon.
Non, on ne le saura jamais. Alors, une fois que tu as fait ton traitement photo sous Lightroom, pardon, tu vois, je restais sur Aperture. Qu'est-ce que t'en fais de tes photos?
Donc en fait, j'ai tous mes RAW sont stockés dans mon catalogue Lightroom qui est sur un disque dur externe classique. Et en fait, tous les JPEG sont exportés dans Photo et Google Photo. J'utilise les deux. Comme ça, en fait, ce qui se passe, c'est que comme je ne garde que les JPEG développés, ceux-là sont synchronisés avec mes bibliothèques photos. Et comme ça, je peux les partager avec, par exemple, ma femme pour les photos de Paris. On fait un album partagé. Et voilà. Et les RAW sont stockés sur un catalogue Lightroom sur un disque dur externe que je backup. Et généralement, en fait, j'ai calculé un disque dur externe, je vais changer tous les 3 ans, à peu près.
D'accord.
Et donc, j'archive mes disques durs. Ils sont tous dans mon bureau avec les années dessus et mon catalogue Lightroom dédié. Comme ça, j'ai qu'à le brancher, j'ouvre le catalogue et je retrouve l'entièreté de ma photothèque et de tous mes réglages.
Pour donner une idée, t'as combien de stockage en disque dur?
Écoute, depuis 2010, j'ai entamé cette année le 6e disque, donc je suis à 6 Tera.
6 Tera de photos?
De RAW, ouais, et de
ouais,
vidéos.
D'accord, ouais, tu me bats, mais très 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 largement. Tu vois, moi qui pensais qu'avec mes 28 000 photos sur mon iPhone, j'étais...
Je te parle du stockage RAW. Hein.
Ouais.
Que ça, sur l'iPhone, ma bibliothèque photo, elle fait 156 gigas.
156? Ouais.
Ouais.
Ah, tu me bats largement aussi, ouais. Tu vois, moi, c'est là où moi je vois que... Mais moi, je fais du tri. Je sais pas si tu gardes toutes tes vidéos, par exemple, toutes tes rushs vidéo, tous les trucs comme ça.
J'efface rien, c'est scandaleux.
Ouais, moi, je fais du tri, tu vois. Au bout d'un moment, je me dis, parce qu'au début, je gardais tout. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des rushs qui ont, j'ai des rushs l'autre jour qui étaient de mon vieux caméscope. Bon, qui ont peut-être 10 ans et j'avais jamais réutilisé. Et que j'ai fini par bazarder. Alors, c'est toujours à ce moment-là, tu te dis, tiens, j'aurais bien retrouvé un truc à l'intérieur, ouais.
En fait, je jette rien. Ça, c'est la faute en partie de Kiesinestat. C'est que, en fait, je regardais plein de vidéos à ses débuts et, le gars va te rechercher des morceaux de vidéos qui datent d'il y a 15 ans.
Ouais.
Et en fait, tu te rends compte que il monte ça avec parfaitement et tu te dis, mais ouais, en fait, il a raison, ça peut toujours servir, tu vois.
Ouais.
Et donc, en fait, depuis, je jette rien. Ce qui fait un peu que ma bibliothèque photo Apple est un peu un foutoir. Il y a une fonction qui est extraordinaire dans Google Photos, c'est la fonction d'archivage. En fait, dans Google Photos, tu peux sélectionner toute une série de photos et tu peux les archiver. Donc, ça veut dire qu'elles sont toujours disponibles dans ta bibliothèque photo,
ouais.
Mais planquées. Et donc, ça veut dire que dans ton flux photo, tu ne gardes que ce que tu veux, mais tu ne jettes rien et tu peux tout archiver. Et je trouve ça génial. Mais effectivement, je jette rien. Je peux retrouver j'ai des vidéos. Depuis que j'ai un iPhone, je retrouve des rushs vidéo qui parfois piquent aux yeux parce que ça vient de l'iPhone 3GS ou de l'iPhone 4. Enfin, tu vois. Donc, mais je garde tout parce que je me dis, tiens, un jour. Ça peut toujours servir, tu vois.
Ouais.
Et donc je collecte un peu, ouais.
Ouais, t'es en train de me convaincre d'en garder un peu plus. Bon, après moi j'ai 3 téra de stockage à la maison, donc j'ai encore un petit peu de place. Mais ouais, t'es en train de me convaincre.
Voilà, après ça tombe, je ne m'en servirai jamais, j'en sais rien, mais je me dis voilà, je sais pas si un jour je décide de faire une vidéo, je sais pas pour l'anniversaire de ma femme par exemple, et de faire un truc un peu nostalgique. Et d'aller chercher des vieux rushs de quand on s'est rencontrés, de quand on habitait Montréal ou ce genre de trucs, je me dis, voilà, je les ai, quoi. Que si je balance ces vieux trucs-là, ça tombe, je m'en servirai pas, mais peut-être que, donc non, je garde. Et donc, il faut que j'investisse dans un... J'ai un NAS 2B pour le moment, et en fait, je suis en train de me rendre compte que je vais vraiment investir dans un gros NAS, où je vais aller foutre du stockage, du terrain, du stockage, et plutôt que de stocker mes vieux disques à plateau dans mon bureau, balancer tout sur le NAS et avoir un backup un peu des disques à voir. Mais ça coûte une blinde, donc pour le moment...
oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si on stocke tout, et puis alors Kiesinestat, j'imagine même pas le volume de rush qu'il doit avoir dans la journée pour arriver à monter...
Ouais, je veux pas savoir. Ouais, là, ça devient n'importe quoi, parce qu'il fait des vlogs en 4K, donc ça doit être...
Ouais. Parce que en fait, les gens se rendent pas compte, hein, mais monter 10 minutes de vidéo, de vlog comme il fait par jour, le temps de rush qu'il faut pour avoir ce qu'il faut, vraiment avoir ce qu'il faut entre les plans de coupe, etc., ouais, c'est énorme. Hein.
Et le temps que ça prend, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est pris un monteur cette année-ci, parce que je pense qu'il s'en sortait plus. Il s'en sortait plus, à mon avis, en termes de temps. Et puis en termes de stockage, le gars doit avoir des centaines de terras dans son bureau avec du rush dans tous les sens. Enfin, ça doit être assez ahurissant, ouais.
Ouais, non, c'est clair. Je pense que c'est assez ahurissant. Et puis je regardais aussi encore. Bon, c'est parce que c'est marrant parce que là on parle de matériel. Finalement, le smartphone, c'est un équipement qui est léger, même si les gens vont dire qu'un iPhone, ça coûte un peu cher. Mais je regardais ce matin la vidéo de Peter McKinnon sur son nouveau studio vidéo.
Ouais.
Et je sais pas si t'as vu la vidéo, mais c'est
Encore.
oh là là, c'est je sais, il y a ne serait-ce qu'en lumière, en son et tout, c'est là où il y a un cap. C'est ils ont pas juste leur réflexe ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un volume. Je crois qu'il y a trois prises de son ou deux trois prises de son. Tu vois, juste pour faire pour qu'ils soient sûrs d'avoir toujours le bon son, etc. Il doit y avoir trois quatre éclairages. Enfin, c'est
Ouais. Après, c'est clair qu'une fois que tu passes à leur niveau, la vidéo, ça te demande un matériel de fou furieux. Mais non, c'est ce que je dis toujours, faut relativiser. C'est leur boulot, tu vois.
ouais.
Eux, ils vivent de ça, donc ils sont obligés d'avoir la qualité au top. Après, je pense que si tu cherches un peu sur Amazon ou quoi, il y a moyen de t'équiper pour faire de la vidéo, je veux dire, en amateur, pour beaucoup moins de sous que ça. Tu vas aller chercher le nouveau DJI Osmo Mobile 2, ben allez, je crois qu'il est à 159 euros. T'as un très bon stabilisateur qui fera le taf. Ton smartphone, tu l'as. Le clip comme t'as, le Gifol, tu vois, que j'ai acheté d'ailleurs à cause de toi, avec un petit pas de vis et un micro à une quarantaine d'euros, ben t'as un setup qui fonctionne bien pour 90% de ton usage particulier.
Ouais.
C'est clair qu'après, si tu veux faire du studio, qu'il te faut de l'éclairage, qu'il te faut du montage, enfin. T'arrives dans l'équipement professionnel, mais je veux dire, pour faire des films familiaux, des films de vacances, des films de souvenirs, un bon micro, ton téléphone, un stabilisateur et une lampe LED de chez Neewer que tu vas payer une quarantaine d'euros avec des piles rechargeables, je pense que pour, allez, je vais dire 300 euros plus le smartphone, tu te fais un kit de vidéo qui fonctionnera très bien. Parce que là, on parle de gars qui font des millions de vues et qui ont un matos de fou. Enfin, quand tu vois que Peter McKinnon, il fait des vlogs en 1DX, c'est un appareil photo qui vaut 6000 balles sans les objets, quoi. Tu te dis, mais. Déjà, il doit avoir des muscles énormes parce que ça pèse une blinde.
Et il le dit dans la vidéo de ce matin que c'est trop lourd au bout du bras.
Mais tu te dis, donc, le gars, il a un 1DX au bout du Gorillapod avec une objectif sérielle. Donc, le gars a au moins 12 000 balles de matos à bout de bras. Et donc, je pense qu'on boxe pas du tout dans la même catégorie, quoi.
Ouais. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Si tu disais que tu pensais à te rééquiper avec un appareil, on va dire, j'ai envie de dire classique, hein, je sais pas comment
Ouais.
l'appeler, ça serait, tu te dirigerais vers quoi là actuellement?
Ah, gros dilemme, j'hésite. Parce qu'en fait, mon cœur va chez Canon par habitude.
Ouais.
Donc, je lorgne sur un. J'ai pris pour habitude d'acheter mon matos d'occasion parce que je suis pas Crésus, donc j'ai pas envie d'acheter des boîtiers. Donc là, je lorgne sur un 5D Mark III en occasion où je décide enfin de switcher le pas. J'ai toujours pas répondu à la question, donc je peux pas te donner une réponse fixe. Et alors, je partirai sur un Sony, un A7.
Ouais.
Soit une version 1, soit une version 2 en occasion. Je sais pas encore. Je sais pas. Un des deux. Maintenant, j'ai beaucoup d'habitude chez Canon. J'ai l'habitude. En plus, il y a le parc d'objectifs est beaucoup plus abordable que chez Sony. Et donc, là maintenant, si je dois choisir directement comme ça de répondre, je prendrais un Canon. Un 5D Mark II ou un 6D, je sais pas encore. Mais un plein format, ça c'est sûr.
Ouais.
Ouais. Une fois que tu y as goûté, c'est compliqué de faire autrement.
Ouais, moi j'étais. Il y a quand même beaucoup de gens qui tournent aussi en Panasonic, c'est sur des ceux qui font la vidéo notamment sur le GH5 et compagnie.
Ouais.
Et je les ai manipulés et c'est vrai quand même il y a des trucs sympas. Mais moi je suis tout en objectif Sony et alors j'ai fait une vidéo. Je suis pas très content de mon A6000 pour faire de la vidéo, notamment parce qu'il n'y a pas la prise micro dessus. Et alors je pense que sur le A7 ils ont résolu les problèmes.
Ouais.
Et puis c'est cette espèce d'objectif qui n'est, tu peux pas mettre en mode selfie chez Sony.
Ouais.
En fait, ils l'ont mis sur l'entrée de gamme, ils l'ont mis sur les tout petits. Mais dès que tu montes en gamme, en fait, l'objectif n'est plus du tout mode selfie. Même d'ailleurs, Casinestat avait fait une vidéo sur le sujet pour dire que c'était le truc qui manquait. Tu vois, ils ont pas mis du touch ni cette orientation d'écran. Et donc ça avait fini par me taper sur le système, tu vois, au bout d'un moment. Et c'est pour ça que j'avais délaissé. Et puis quand même, tu vois, au bout d'un moment, je finis par y revenir et je me dis bon, il y a quand même des trucs, comme tu disais tout à l'heure, hein, on fait plus facilement encore avec un appareil un peu plus gros qu'avec un smartphone. Ne serait-ce qu'il y a des trucs qui sont tout bêtes, hein, c'est le changement de mise au point, tu vois. Même si j'arrive à le faire avec l'iPhone maintenant, avec Filmic, on arrive à le faire. Il y a des trucs qu'on arrive quand même plus facilement à faire avec un appareil un peu plus gros, avec des objectifs, bah, sur lequel on peut juste tourner une bague et ça bouge, quoi.
C'est sûr. Après, tu vois, là, je pense que la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu es plus orienté vidéo. Moi, en fait, mon appareil photo, je suis un photographe dans l'âme, entre guillemets.
Ouais.
Et donc, en fait, ces fonctions vidéo ne m'intéressent pas. Moi, j'étais sur un 5D Mark I qui filme, il filmait pas. C'était réglé, il n'y avait pas de vidéo. Pas d'écran orientable et ça m'a jamais dérangé parce que, justement, en fait, comme je suis pas un vidéaste dans l'âme, j'ai besoin de, quand je veux filmer, j'ai besoin d'une simplicité. Et là, pour ça, pour moi, il n'y a rien de mieux que le smartphone. Tu le cales sur ton DJI Osmo, tu stabilises ton truc, tu appuies sur play et basta, quoi. Et
Ouais.
il fait le reste. Et donc, honnêtement, c'est pour ça que je te dis, les fonctions vidéo du réflexe m'intéressent pas. Non, par contre, ce qui me manque vraiment fort, c'est d'avoir une longue focale, un 200 mm par exemple, qui ouvre à f4, et de pouvoir tirer un portrait avec un bokeh derrière, que ça, t'auras jamais à l'iPhone, parce que le capteur ne le permettra encore à l'heure actuelle jamais.
Ouais, non, mais ça, c'est clair.
J'ai revu des photos récemment que j'avais prises de ma femme à Montréal, quand on y était retourné, justement avec mon 5D, et à l'époque, j'avais un 7200 f4, et ces photos-là, même avec le meilleur téléphone du monde et les meilleurs objectifs, même si je décide de craquer sur un téléobjectif de chez Zeiss qui coûte 300 balles pour l'iPhone, jamais j'aurais été rendu là parce que le capteur ne le permet pas.
Ouais, tout simplement. Ouais.
Et donc c'est ça en fait qui me manque, c'est plus cette pratique-là de la photo qui me manque, c'est vraiment aller chercher, pour la photo de tous les jours et pour faire beaucoup de photos et des souvenirs, l'iPhone fera très bien le taf, mais c'est pour aller chercher un peu le côté artistique de la photo. Et aller chercher un flou, un bokeh, une luminosité. Et donc c'est pour ça en fait que j'ai envie de me rééquiper sans forcément me ruiner, parce que je sais que je ne l'utiliserai pas tous les jours, mais je serai content d'avoir mon boîtier dans mon sac pour pouvoir partir en week-end, partir se promener ou tu vois.
Ouais, et t'avais bien envisagé, il me semblait à un moment, tu voulais passer sur du Fuji XT, quelque chose ou comme ça, non?
Ouais, il y a eux aussi qui me tentent bien. Le problème, c'est que de nouveau, je pense que c'est une question d'habitude. Faudrait un jour. Déjà, je trouve que leurs boîtiers sont très chers.
Ouais.
C'est de la très bonne cam. Mon frère a un XT1 et je l'ai un peu joué avec. Mais je trouve que leurs boîtiers sont très chers et que leurs objectifs sont très chers. Et alors, ce qui me dérange, en fait, c'est que c'est pas du plein format. Mais c'est con, mais devoir penser quand tu achètes un objectif à faire la conversion de ta longueur focale, ça me saoule, en fait. Et donc, j'aime bien pouvoir. Quand j'achète un objet, ben voilà, j'achète un 24 mm, c'est un 24 mm et pas un équivalent 35, etc. Mais après, je pense que ce qui me bloque, je pense que c'est le prix, je sais pas. Ouais, tu vois, mais j'y suis revenu, je me dis que si je dois passer sur de l'hybride, je partirais plus sur un Sony.
Ouais.
Parce que c'est un appareil photo qui, à mon sens, est un peu plus à la mode actuellement. Et donc, tu as beaucoup de constructeurs tiers qui sont en train de développer des optiques, tu vois. Donc, Tamron s'y met, Sigma s'y met, Samyang s'y met. Donc, tu peux te retrouver avec des bonnes focales pour de l'amateur passionné, on va dire, pour un budget qui est correct. Et pas forcément d'aller chercher. Parce que si tu vas chercher un 24, allez, un 24-70 2.8 de chez Zeiss, c'est presque plus de 2000 euros. Donc, forcément, enfin, tu vois, tu réfléchis un peu. Et chez Sony, j'ai pas l'impression que ce soit un peu. Chez Fuji, pardon, j'ai pas un peu l'impression, c'est vraiment leurs optiques à eux, et je trouve que le budget est un peu cher. Mais par
Alors,
contre, les appareils photos sont magnifiques, je trouve
ouais.
qu'ils ont un look un peu vintage qui est magnifique.
Alors, d'autant qu'il y a quand même un avantage chez Sony, c'est qu'au fur et à mesure que ça se développe, le marché de l'occasion se remplit.
Ouais.
L'autre jour, j'étais surpris, notamment de voir tu vois, sur des, j'ai regardé par curiosité le A6500, qu'on trouve d'occasion pas très cher, on trouve des séries d'objectifs pas très chères maintenant, etc., y compris sur
Ouais.
Leboncoin, etc., ou mon revendeur, moi, tu sais, j'ai un camarade là qui a une chaîne, qui est vraiment un photographe pro et tout, et c'est vrai que quand on regarde un petit peu en ce qu'il a en occasion maintenant, là où je trouvais pas d'occasion sur de l'objectif il y a 2 ans, maintenant en fait on les trouve et puis très très abordable en fait. Donc c'est bien que le marché s'est rempli quoi.
Moi, je regardais un peu les Sony, les A7, mais les versions 1. Ben maintenant, en cherchant un peu, tu trouves pour 550, 600 euros, tu trouves un boîtier, quoi.
Ouais.
Et ça devient abordable que j'irai pas clairement mettre. Comme c'est une passion et pas un boulot, et que c'est vraiment un passe-temps, je vais pas aller mettre 2000 euros dans un boîtier. J'en ai pas la nécessité. Parce que par rapport au temps d'usage, c'est ce que je disais, les gens vont me dire, oui, mais t'es prêt à mettre plus de 1000 euros dans un téléphone. Oui, mais c'est fin. Mon téléphone, je l'ai tout le temps avec moi, je l'utilise tous les jours, plus de 10-12 heures par jour que mon appareil photo, pas, donc je ne mettrai pas un budget aussi élevé. Maintenant, si on m'en offre un jour, je ne me cracherai pas dessus, on est bien d'accord, hein, mais.
Et
T'en plein.
alors une tiens le temps d'utilisation chez Moment Tycock, elle a un chargeur ou elle a pas de chargeur en fait?
Elle n'a pas de chargeur.
Ouais. Donc cette parce qu'ils ont une coque qui a une batterie intégrée, hein, il me semble.
Ouais,
Hein.
j'ai vu, ouais. Non, j'ai pas de chargeur parce qu'en fait j'ai un peu, je peux remplir, je crois, un sac à dos complet de batterie externe. Et donc je suis jamais en rade de batterie.
Ouais, donc toujours avec ta batterie dans le dos.
Dans mon sac à dos, j'ai toujours une petite. J'ai c'est des ampères, c'est des. Je crois que c'est 15 mAh, j'en ai deux, donc c'est des petits. Comme la taille d'un portefeuille plus ou moins. Et elles sont dans mon sac et donc je manque jamais de jus.
Ouais.
Et en plus de ça, honnêtement, il faudrait tester, mais je suis pas sûr que ce soit pratique la coque Moment avec la batterie intégrée sur un stabilisateur, un Steadicam, tu vois.
Alors je crois qu'elle passe pas et je crois qu'en plus et c'est un des problèmes dessus, c'est qu'elle condamne la prise Lightning
Ouais.
et donc tu peux pas mettre de micro externe.
C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, non, je suis resté sur une batterie classique. Et puis, j'ai jamais eu de problème où tu te retrouves, tu vois, en rade de batterie parce que tu dois filmer. Parce que généralement, tu as rechargé ton téléphone avant, donc tu as 100% de batterie, donc tu as de la marge avant de tomber à court. Et bien, de toute façon, le réflexe, c'est que ben voilà, j'ai mon sac à côté. Dès que j'ai fini de filmer une partie, je prends le réflexe de brancher le téléphone directement sur la batterie. Et au moment où je me mets à filmer, il a récupéré ce qu'il a perdu en batterie. Donc, elle m'a pas semblé intéressante sur le moment.
Ouais. Bon, alors on va finir un petit peu le workflow parce que finalement on traîne dans ces considérations techniques.
Ouais.
Non, mais c'est vrai, c'est des questionnements. Je pense qu'on a tous les mêmes questionnements. Tous ceux qui veulent se lancer, qui veulent progresser, de toute façon, on a tous ces questionnements face au matériel. Qu'est-ce que je dois prendre, etc. Et puis moi, je vois beaucoup d'étudiants, tu sais, et certains font de la photo, de la vidéo, et tout le monde a la même question, quoi. C'est qu'est-ce que je dois prendre? Est-ce qu'il y a un truc qui est mieux? Et je sais pas si t'avais écouté l'épisode avec Maximus. Et on
Ouais.
est arrivé à la conclusion que de toute façon, il n'y avait jamais le truc
Non.
idéal, qu'il y avait toujours un truc qui n'irait pas, qui faudrait améliorer ou quoi que ce soit. Donc c'est comme ça, voilà. Chacun fait ses choix. Puis tu as une formule qui le résume très bien, hein, que tu vas nous rappeler sur tes usages.
Oui, c'est ça, mes usages ne sont pas les vôtres.
Voilà. Donc chacun, on a nos usages. Alors toi, après,
Exact.
donc tes photos, outre le stockage, donc tu le disais, tu publies sur Instagram,
Ouais.
qui est un. T'en penses quoi d'Instagram? C'est un réseau que t'aimes bien ou tu.
De plus en plus, honnêtement, en fait, ça devient un peu mon réseau social préféré par défaut. Facebook, j'y vais quasi plus parce que c'est, enfin voilà, n'est pas d'intérêt. J'utilise beaucoup Messenger et le gestionnaire de page, mais ça pour le boulot. Mais le Facebook, j'y vais plus. Twitter, je sature un peu parce qu'on est arrivé à un stade où dès que quelqu'un a un avis, il s'oblige de le partager, même si ça nous intéresse pas. Et donc ça devient un peu. Je passe pas une journée sur Twitter sans que quelqu'un essaie de venir s'engueuler avec moi et j'ai plus envie. Et en fait, Instagram, j'aime bien parce que ben, tu peux partager un peu du contenu éphémère via les stories, ce que je trouve cool, que j'utilise de plus en plus. Et ben voilà, ça te permet de partager un peu les photos. L'inconvénient, je vais dire, d'Instagram, c'est que si on se met à suivre beaucoup de gens, ça devient un peu le lieu de tout est parfait, tout est magnifique, tout est ultra léché. Et donc, on hésite parfois un peu à poster une photo. Moi, je pars du principe que si la photo me plaît et que j'ai envie de la mettre sur Instagram, je ne vais pas me poser la question de savoir, tu vois.
Ouais.
Maintenant, je sais que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui veulent développer un peu leur activité sur Instagram et qui sont en train de se casser la tête pour avoir le meilleur flux photo parfait, que toutes les photos soient cohérentes les unes avec les autres pour fournir un truc de qualité. Donc, tu as un peu parfois le défaut, c'est que tu te retrouves. En tant que jeune photographe, tu vas aller sur Instagram, suivre des comptes de photographes, honnêtement, tu ressors de là déprimé, quoi.
Ouais.
Parce que tu te dis, jamais de la vie, je vais y arriver. En plus, les gars ont du matos, à plus savoir où en mettre. Et donc, je pense que c'est une arme à double tranchant. C'est vraiment une chouette communauté parce que ça permet justement de s'inspirer, d'avoir pas mal d'idées, ne fût-ce que sur le cadrage, sur des idées de composition, sur comment mettre en valeur certains objets. Mais il faut rester les pieds sur terre et se dire que ben voilà, on est souvent face à des professionnels dont l'objectif est de gagner leur vie sur Instagram. Et que si on n'arrive pas à avoir le même rendu, c'est pas grave. C'est
Ouais.
normal. Mais ouais, c'est un réseau que j'aime bien, les stories. Je commence à me marrer en stories. Et j'aime bien l'idée parce que ça permet de publier des photos et de se faire, entre guillemets, un peu connaître. Je préfère ça à des 500px ou anciennement Feu Flickr qui veut bientôt nous quitter.
Oh, il a été racheté. Attends, on sait pas.
Ouais, mais ça va. Je pense que la marque Flickr va disparaître. Ça va devenir. C'est
Smug,
ce mec qui va.
ouais.
Donc voilà, je trouve que c'est un réseau qui est plus facilement abordable, et en plus de ça, ben voilà, ça permet aussi de partager un peu du contenu de, je veux dire, les comment on dit, les coulisses, tu vois. J'aime bien faire ça, moi, par exemple.
Ouais.
Alors... Donc, par exemple, je teste beaucoup de smartphones, mais je vais mettre une belle photo bah, du P20, par exemple. Je vais faire une chouette photo bien lissée que je vais mettre sur mon flux. Et derrière, bah, je vais faire de la story pour montrer un peu le boîtier, la boîte, le machin. Enfin, tu vois.
Ouais. Alors, au moment où j'enregistre, je dois quand même préciser qu'il y a les 4 dernières photos au moment où on enregistre, c'est des photos de téléphone.
Ouais. C'est parce que j'en teste beaucoup pour le moment. Donc, c'est un peu le sujet du moment et que j'ai pas vraiment le temps de faire des sorties photos. Mais ouais, c'est vrai que pour le moment, c'est un petit peu branché tech, ouais.
Ouais. Mais tu sais ce que tu dis sur le fil Instagram, etc., qui démoralise les jeunes photographes. Ça démoralise pas que les jeunes photographes. Et je dois le dire parce que j'ai des clients que j'accompagne actuellement sur de l'Instagram et se lancer sur Instagram. Et on fait un benchmark un petit peu de, tu vois, pour voir un petit peu des fils d'inspiration chez des gens qui vivent de ça, ou même nous, des influenceurs locaux, tu vois, des gens qui, moi, c'est des anciens étudiants par exemple qui vivent de ça maintenant. Et quand on regarde le flux qui est soit travaillé sur la couleur, soit sur la thématique, etc., ça démoralise très rapidement les clients qui disent mais on n'arrivera jamais à faire ça. Et je leur dis non, vous n'arriverez jamais à faire ça effectivement parce que vous avez autre chose que bah, votre propre vie à vendre. Vous avez un produit. Moi ils ont des lieux, tu vois, ils ont des puis c'est il y a des lieux naturels, mais ils ont des personnes, ils ont des produits, ils ont plein de trucs à montrer. Et je leur dis non, vous pouvez pas faire qu'une monothématique pour plaire à l'algorithme d'Instagram. Ou vous avez votre truc à vendre à vous, qui est votre tout ce que vous faites, et votre boulot c'est pas de gérer votre compte Instagram, quoi. Enfin, c'est un outil de communication, quoi. Donc le côté démoralisant, en fait, il démoralise mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de monde, je pense. Et ça mériterait quand même que les qu'on se dise bon bah tant pis, moi, tu vois, par exemple, je ne suis plus la notion de d'avoir une grille, tu vois, équilibrée en disant je vais poster, faut pas que je poste plus de 2 photos de tel sujet en même temps ou quoi que ce soit. Tu
non,
vois.
Pareil, parce que tu disais que mes 4 dernières photos c'est du smartphone, mais si tu remontes un peu avant, il y a des photos de quand je suis au ski, il y a des photos, enfin, tu vois, j'ai pas une thématique de base, je m'en fous un peu, en fonction de mes activités du moment, ben, je vais publier des photos qui sont liées à ce que je suis en train de faire pour le moment. Et je suis pas intéressé par avoir une seule thématique, avoir une gamme de couleurs que je suis absolument et je dois être fidèle. Parce que justement, alors tu perds le côté un peu instantané d'Instagram, et c'est ce que j'aime bien moi dans ce réseau. Tu disais les photos ultra léchées, allez, par exemple, tu fais l'expérience. Moi je mange du porridge parfois le matin, tu vas chercher des photos de porridge sur Instagram, mon porridge ne ressemble jamais à ça. Jamais. Les gars, par exemple, j'ai acheté une Chemex, on en a parlé.
Ouais.
Je suis le hashtag Chemex. Mais ces mecs font du café, c'est une mise en scène totale. Moi, je fais du café, ça ressemble à rien. Il y a un peu de grain qui est sorti du grinder. Enfin, ton filtre, leur filtre à eux, il est toujours ultra bien positionné, machin. Moi, de temps en temps, le mien, tu vois.
Ouais.
Et donc, tu te dis, mais voilà, il faut rester. C'est des belles photos, c'est du beau contenu, mais il faut rester réaliste et se dire que si on n'y arrive pas, c'est pas la fin du monde. Et c'est pas grave, quoi.
Oui, puis alors des fois en plus, il y a des personnes quand c'est trop beau, trop léché, ils ont tendance à penser que c'est pas vrai. Et
c'est ça.
Ton histoire du café illustre tout à fait ça, c'est que je pense qu'il y a. Puis je suis en train de lire un bouquin, j'en reparlerai sur l'histoire de comment est-ce qu'on installe ça, son image de marque, etc. Et il y avait une anecdote. Ma femme l'autre jour, elle feuillette le bouquin et elle me dit voilà, mais alors les filles qui font des blogs de cuisine, l'un des conseils c'était de dire il faut faire 1,2 fois plus de quantité de ton gâteau, tu vois, pour remplir ton moule, parce que comme ça il sera bien rempli, enfin tu vois, ton assiette, il faut qu'elle ait telle taille par rapport à ce que tu manges, ils font 3 assiettes quand ils font un plat pour eux, ils en font en fait 3 assiettes pour pouvoir faire je sais pas combien de photos, etc. Et j'avais commencé à marquer dans mes notes en disant mais c'est le genre de truc moi qui me gave, tu vois, je suis pas en mesure et j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Alors je fais mes photos d'assiettes quand en ce moment il fait beau. Ça tombe bien, les lumières sont bien, tu vois, mais il y a la plupart de ces photos-là qui sont super léchées. Je pense qu'en fait, comme tu disais, hein, ceux qui font du café, je pense qu'ils le boivent pas ou le boivent froid, en fait.
Mais non, le temps de toute la mise en scène, le café, il est froid. Oui, c'est sûr et certain. Et en plus, c'est ce que je disais, ben, tu vois, après, je peux comprendre que ces gens-là mettent ça en place parce que c'est vraiment leur métier, ils gagnent leur vie là-dessus, je peux comprendre. Mais par exemple, pour le moment, tu fais beaucoup de photos d'assiettes de bouffe.
Ouais.
Tu vas en avoir 4 parce que il fait beau, t'as la bonne luminosité, c'est le bon moment, tu fais une photo et tes presets sont bien appliqués. Mais si la 5e, elle est un peu surexposée, un peu sous-exposée, enfin, tu vois, pas forcément cadrée, personne va t'en vouloir. Tu vois ce que je veux dire?
Non.
C'est pas grave en soi, enfin je pense. Après, il y a peut-être des gens qui vont. Après, tu me diras, t'as les haters qui peuvent arriver. Mais je veux dire, c'est pas parce que ta cinquième photo est pas forcément parfaitement comme les quatre premières que c'est la fin du monde. Je veux dire, ton contenu. Moi, je. Après, tu me diras. Enfin, entre guillemets, je suis un vieux briscard d'internet. Enfin, ça fait un peu vieux con de dire ça, mais moi, je viens du blog. Et pour moi, le blog m'a appris une chose, c'est que l'important, c'est ton contenu. Et tu peux avoir le plus beau template du monde, le meilleur site du monde, si ton contenu est pourri, ton contenu est pourri. Tu vois ? Et à mon sens, en photo, surtout sur Instagram, c'est pareil. L'important, c'est ton sujet. Si ton sujet est bien mis en valeur, et si au moment où on voit ta photo, on comprend ce que tu as voulu faire, même si tu es un peu sous-exposé, surexposé, un peu décontrasté ou ce soir, c'est pas très grave. Et il y a une excellente série de vidéos YouTube qui le montre, par exemple. C'était un Chinois qui faisait ça, je me souviens plus de son nom. Le gars, en fait, a fait une thématique, il prend des photographes professionnels et leur file une caméra pourrie.
Ah oui, ouais, j'ai vu, ouais.
Tu vois? Et donc, tu te retrouves avec un photographe professionnel dont c'est le boulot, qui se retrouve avec une caméra Lego qui sort des photos pixelisées. Enfin, t'as l'impression d'avoir une webcam début des années 90. Et le gars, en fait, tu vois ces photos et tu te dis, putain, ouais, son cadrage, il est parfait, quoi. Son sujet bien mis en valeur. La photo est pourrie, c'est ultra pixelisé, mais le contenu est là. Et je pense que c'est un peu ce qu'on perd avec tous ces influenceurs et influenceuses sur Instagram, c'est que, ils accordent beaucoup trop d'intérêt à la finalité de ton produit, alors que ce qui est intéressant, c'est ton contenu. Et tu peux avoir les plus belles photos du monde. Moi, si tu mets 600 photos de porridge ultra bien positionné, il y a un moment, ça m'intéresse plus parce que j'ai l'impression de l'avoir vu 600 fois et que ton sujet est le même. Et je pense que c'est l'inconvénient, à mon sens, d'Instagram, c'est qu'on arrive à ce moment-là où tu te retrouves avec des photos où elles se ressemblent toutes, tout le monde se ressemble, tout le monde fait pareil. Et tu perds un peu le côté naturel de la mise en valeur de ton sujet, justement.
Ouais, très clairement. Et c'est en plus, même c'est un truc, tu vois, tu disais les stories, on les fait plus un petit peu à l'arrache, mais même l'ère des stories à l'arrache, petit à petit, disparaît, en tout cas chez certains influenceurs. Alors moi, c'est un truc que je trouve ça hallucinant, c'est-à-dire que des photos qui avant auraient été tranquillement dans la grille, qui sont faites d'ailleurs la plupart du temps en plus à l'appareil photo, hein, parce qu'on voit, pour moi il y a des rendus où puis j'ai vu travailler certains où on voit que c'est des, bah, quand ils trient leurs 600 photos de voyage, et ben il y en a qui passent dans la grille, dans le flux, dans la story, et on voit très clairement, mais la qualité de certaines photos qui sont en story, donc qui sont éphémères, est équivalent des fois à ce qu'ils mettent dans la grille, et en fait c'est une tendance avec des stories de plus en plus travaillées. L'autre jour j'ai vu un youtubeur aussi qui avait une story mais avec une qualité de vidéo, de montage vidéo, tu vois, que c'est juste hallucinant pour du contenu qui est normalement éphémère, tu vois. Bah, et je dis normalement parce que maintenant on peut l'archiver. Et ça m'a amené à penser, et j'ai vu, je sais pas ce que t'en penses, certains disent que Instagram pourrait devenir la nouvelle page d'accueil personnelle, tu vois, notre nouvelle homepage. À l'époque, on avait notre blog avec nos adresses, etc.
Ouais, ouais.
Et certains disent, bon, bah maintenant, on pourrait avoir sur Instagram, en fait, ça pourrait être notre profil vraiment qui nous représente avec des trucs très léchés, des trucs plus instantanés, de l'actu, un lien qui vers autre chose. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
Je suis vraiment pas fan du concept parce que on n'est pas le maître du contenu, tu vois. Enfin, je reviens toujours à mon vieux laïus, mais pour moi le plus important dans ta communication digitale, c'est ton blog. Parce que ton blog, t'es le maître chez toi, tu fais ce que tu veux. Demain, ouais, pour le moment, Instagram est fort à la mode, donc c'est bien d'avoir du contenu léché, machin quoi. Mais si demain ils décident de tout foutre en l'air ou de changer complètement la façon de fonctionner ou de tout fusionner avec Facebook, par exemple, ce qui m'intéresserait pas, mais tu perds l'ensemble de ton travail, tu vois. Donc je suis pas convaincu. Je pense que c'est un bon outil de diffusion, c'est un bon outil de communication, mais à mon sens, il te faut une plateforme indépendante sur laquelle t'es le seul maître à bord et tu peux faire ce que tu veux. Moi, c'est ce que je dis toujours. Demain, Facebook, YouTube et Instagram décident de fermer leurs portes. Je vais gagner un petit peu de temps sur mon smartphone, mais mon contenu reste sur mon blog.
Ouais.
Et donc, je suis pas convaincu. Après, ça reste un excellent outil de diffusion. Maintenant, les stories ultra travaillées, je trouve ça un peu, je suis pas fan. Par exemple, moi, je suis sur Instagram, je suis Laurie Tillemans. Elle fait des stories qui sont dingues parce que tu vois que la gonzesse se prend pas la tête.
Ouais.
Elle a un flux de photos ultra travaillé. Tu sens bien que derrière, il y a une volonté de communiquer. Donc, son flux photo est vraiment bien travaillé. Mais dans ses stories, tu vois que elle filme ce qui lui passe par la tête, quoi. Et que le cadrage soit bon, pas bon, que la luminosité soit bonne, pas bonne, elle s'en tape. Elle diffuse du contenu. Et je trouve ça cool. Et je trouve ça intéressant, plutôt que d'avoir un truc ultra travaillé. Si je veux un flux ultra travaillé, ben, je vais voir tes photos. Si je veux de l'instantané, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Tu sais, par exemple, tu fais du vlog, tu fais de la stories en courant, t'es tout haletant, un peu transpirant, mais on s'en fout parce que voilà, on sent que à l'instant T, tu voulais partager un moment, tu t'es pas posé la question, t'as ouvert ton appareil photo, tu t'es filmé, t'as balancé, dans 24 heures, c'est disparu, voilà, basta, t'es tranquille, quoi.
C'est bon, après, ouais.
Je ne suis pas influenceur et je ne décide pas des tendances, mais donc j'ai pas l'impression que ça va. Je pense que, comme tu dis, ça va, les stories vont se professionnaliser parce que tout le monde est convaincu que c'est le nouveau média des 10 prochaines années. Mmh.
Mais je partage entièrement ton avis et alors d'ailleurs c'est toujours ce qui est très amusant, c'est que moi je croise quelques mais même tu vois des influenceurs assez jeunes en fait, j'ai eu des anciens étudiants et quand on regarde un petit peu les écosystèmes, moi je fais analyser les écosystèmes à mes étudiants et systématiquement ils ont beau être influenceurs, tu te rends compte quand même que il y a souvent un bout de blog quelque part qui traîne même s'il est pas forcément, il est sûrement moins à jour tu vois qu'à la grande époque. Beaucoup ont signé maintenant de la newsletter. L'autre jour, j'ai une Instagrammeuse, tu vois, qui disait, ben ouais, moi j'ai des centaines de vues sur chacun de mes articles sur mon blog, etc. Et je pense que ça, il y a des gens qui vont, ça rentre dans la tête des gens, tu vois. Même si, moi, je sais pas ce que toi, tes photos que tu as sur Instagram, je pense pas qu'elles soient sur ton blog ou à la marge, quoi.
Non, parce que j'ai fait le choix de pas avoir un blog photo. Mais non, mes photos sont pas sur. Parce que il y a très longtemps, j'ai décidé que comme je ne, enfin, de plus avoir de blog photo. J'ai eu un moment, je le faisais. J'ai toujours d'ailleurs un site sous Coquen, qui est un CMS dédié à la photo qui en fait permettait d'importer un flux Instagram et donc j'avais toutes mes photos dupliquées sur mon site internet et je l'ai pas fait parce que je n'avais pas envie de développer ça, je suis plus un blogueur qu'un photographe et donc j'avais pas envie d'avoir un site dédié à cette activité là. La différence de ça c'est que toutes mes photos sont stockées sur mon NAS dans un dossier Instagram et donc le jour où Instagram ferme ses portes, qui à mon avis n'arrivera jamais, en 20 minutes de temps, je crée une page, je remets toutes mes photos dessus, je fais une galerie avec mes photos, elles sont là.
Ouais.
Tu vois, et la différence, c'est que ma visibilité, entre guillemets, en ligne, et voilà, je suis pas du tout influenceur, je suis pas du tout une star du web, et je ne veux pas l'être, mais ma visibilité en ligne vient de mon blog. C'est mon blog qui va être la porte d'entrée vers mes réseaux sociaux, qui va être la porte d'entrée vers ma chaîne YouTube, même s'il n'y a pas de contenu dessus, etc. Et donc... Même si mes photos sont pas dupliquées sur mon blog, les gens qui viennent sur mon blog, si Instagram ferme, viendront encore sur mon blog. Et donc je pense que c'est ça l'important. Après c'est clair que ben voilà, si tu décides une influenceuse par exemple, une Instagrammeuse, si elle veut un blog, je pense qu'elle doit dupliquer son contenu dessus. Moi comme c'est plus un outil complémentaire au blog, j'ai pas jugé utile d'avoir la duplication sur le blog, même si je pourrais le faire. Mais donc voilà, je pense que ça dépend un peu ton cœur de cible. Je pense qu'un photographe qui se développe sur Instagram et qui a un blog doit avoir ses photos Instagram sur son blog clairement, tu vois.
Ouais.
Mais moi, comme c'est plus du partage et pas forcément des trucs qui sont liés, j'ai pas jugé utile de le faire. Je pourrais, hein, je les ai toutes, j'ai tout sauvegardé et je pourrais très bien l'intégrer sur un blog, mais j'ai pas jugé utile de le faire parce que voilà, je pense que les gens qui viennent sur mon blog se foutent un peu de. Ou ils me suivent sur Instagram parce qu'ils sont intéressés, ou alors ils viennent que lecteurs de mon blog et ils se foutent de savoir les photos que je mets sur Instagram. Donc voilà.
Voilà.
C'est un choix éditorial que j'ai fait. Je dis pas que c'est le bon, mais.
Non, mais après on a chacun nos choix, puis ça évolue. Hein. Moi, j'étais en train de regarder un petit peu ce que j'ai fait dans le temps entre mes micro blogs, mes gros blogs, mes agrégateurs de blogs, etc. Et j'ai eu un Coquen aussi. Je l'avais arrêté. Je me suis demandé si j'allais pas le relancer. Tu vois, enfin, j'ai eu des noms de domaines spécifiques pour ça, etc. Et un jour, moi, je suis pas photographe et vraiment, j'ai pas envie, tu vois, d'avoir ce côté on vous commande un reportage photo. Là, je serais vraiment très embêté, tu vois, sur cette histoire. Enfin, ça dépend sur quel sujet, quoi. Si c'est un reportage photo sur « je prépare mon marathon », j'y arriverai pour me le faire moi-même. Mais si c'est sur un produit autre, je me dis « j'ai pas envie qu'on me contacte pour ça ». Même si, à la limite, j'aurais envie de vendre quelques photos parce que on m'a demandé de l'achat de photos, tu vois, de ma région, tu vois, quand j'en fais, etc. Donc, on m'a déjà proposé de m'en acheter quelques-unes. Mais la démarche de ça est vraiment trop pour moi compliquée ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça que j'avais coupé aussi mon photoblog. Voilà. Donc.
Ouais. Maintenant, tu vois par exemple, je reviens toujours avec Paris parce que j'aime bien cette ville, mais je vais aller un week-end à Paris. Je vais en partant décider de faire un article sur le sujet. À ce moment-là, je vais faire un reportage photo sur mes 3 jours. Et là, elles vont être intégrées sur le blog parce qu'il va y avoir du contenu. Je l'ai fait il y a 2 ans où j'avais intégré les restos où on était mangé, les conseils que je donnais. Enfin, tu vois, des photos de
Ouais.
la ville, etc. Donc là, il va y avoir un vrai contenu pensé derrière pour un article de blog. Mais bien souvent, enfin, tu vois, par exemple, tu prends les avant-dernières photos avant les smartphones où je suis en vacances au ski avec ma femme. Ben, j'aime bien partager une belle photo de montagne, mais elle ne nécessite pas un article de blog, elle ne nécessite pas d'être sur le blog. C'est vraiment du contenu éphémère. Elle serait encore en story, ce qui ce serait pareil. Et donc, je pense qu'en fait, la question de se poser, c'est de savoir ce que tu veux faire de ton contenu. Voilà, nous, on n'est pas des photographes, on aime bien la photo, mais on n'est pas des photographes. On n'a pas l'intérêt d'avoir un blog photo. Tu décides de devenir photographe, ben à ce moment-là, il t'en faut un. Etc. quoi. Donc, je pense que. Mais l'important, peu importe ta discipline, et ça, je le martèle à qui veut l'entendre, c'est que le blog est le plus important parce que le blog, quoi qu'il arrive, ça restera ton blog. Il sera toujours vivant. Que les réseaux sociaux, ben, ça peut changer.
Ouais, nous sommes entièrement d'accord, et c'est pour ça que je vous mettrai dans les liens ceux qui n'ont pas écouté l'épisode sur, je l'ai fait quand, il y a 10 jours, 15 jours, sur l'importance d'avoir une plateforme qui nous appartient, sur lequel on fait un petit peu ce qu'on veut. Si un jour on a envie de monter notre propre Instagram dessus, on montrera notre propre Instagram. Et c'est vrai que les photoblogs, je pense que la vraie victime d'Instagram, c'est les blogs photos. Hein. Franchement, ça les a tous. Il y en a, on en trouve relativement plus. J'ai l'impression. Et beaucoup de photographes maintenant font de la vidéo YouTube pour dire comment on fait de la photo.
Ouais.
Mais enfin, c'est voir les photos, tu vois, je regardais une chaîne de. Comment il s'appelle Kim, mais je sais plus son. J'ai perdu son prénom. Qui martèle, tu vois, en vidéo énormément comment faire de la photo de rue, etc. Je sais pas si tu vois de qui je parle. Et qui a fait des e-books, etc. Et qui fait, mais je sais pas combien de vidéos. Mais en fait, je crois que son blog doit plus être mis à jour, ou alors très très peu. Il est autant vidéaste que photographe actuellement, parce que c'est aussi une manière finalement de montrer ce qu'il sait faire en photo. C'est aussi de faire de la vidéo pour le montrer, quoi. C'est un peu curieux. Et les blogs photos ont bien 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 disparu, même s'il en reste quelques-uns, bien sûr. Tout ne disparaît pas comme ça. T'as un truc à rajouter sur la photo ou on enchaîne?
Non, je pense que je me suis déjà assez penché sur le sujet.
Ouais. De toute façon, il y a beaucoup de choses sur ton blog, hein, sur ton Insta aussi. Après, moi, si j'avais une question quand même en regardant ton Insta, tu utilises toujours le même filtre à peu près, non, ou pas, sur ton traitement photo, parce qu'ils ont quand même
Ouais.
une
En fait,
signature.
je suis tombé amoureux d'un preset Visco qui s'appelle, c'est le E3. C'est un des presets. Et j'avoue que j'utilise beaucoup parce qu'il me plaît bien en fait. Pas dans une volonté. Même si à force, ben, ça le devient, elles se ressemblent. Elles ont toutes à peu près les mêmes développements. À la base, en fait, c'est juste le filtre qui me correspondait le mieux. Et donc, j'applique souvent le même traitement. Ouais.
Ouais. Ça,
Jusqu'au jour où j'en aurai marre et que je changerai, mais pour le moment. C'est celui-là, ouais.
ouais, mais ça se retrouve en fait, ce traitement, quand on regarde ton flux, on le retrouve. Je mettrai le lien, bien sûr, dans les notes de l'émission. Ça se retrouve bien. Bon, je te propose qu'on parle un peu de ton podcast.
Allons-y.
Comment t'as lancé ça? Alors bon, t'as deux podcasts à toi, on va dire, hein.
Ouais.
Donc ton streetcast podcast, je sais pas comment tu l'appelles, podcast streetcast.
Les deux, parce que ça dépend en fait de. Parfois il est enregistré dans la voiture, parfois il est enregistré assis au bureau, donc disons un podcast. Et
Ouais.
voilà.
Et ton podcast qui va faire hurler ceux qui sont fans d'Android, hein, mais ou de Windows,
Ah,
ou je ne sais pas où. Il y
le
en a.
deuxième, ouais.
Ouais, ça t'est arrivé, hein, c'est le genre de truc qui arrive.
Ouais.
Ne nous traitez pas de fanboy, dans lequel tu m'avais invité il y a quelque temps. On avait parlé d'iPad, d'éducation, etc. Et il y a eu une discussion enflammée qui avait suivi derrière. Et
Ouais.
voilà, c'est après moi je trouve, et c'est ce que j'avais dit, hein, c'est que les podcasts, justement, le gros avantage, c'est qu'on peut aller dans du truc qui nous ressemble vraiment. On est dans de l'intimité, dans des formats différents, on décide de ce qu'on veut, et ça plaît pas à tout le monde, mais c'est aussi bien comme ça, hein.
Exact.
Comment tu t'es lancé dans le podcast? Pourquoi t'as voulu faire du podcast d'ailleurs?
Alors ça date d'il y a très très longtemps en fait. J'ai toujours été passionné par le format audio. J'ai eu plusieurs tentatives de lancement de podcasts qui se sont tous terminés. J'ai commencé mon premier podcast, j'avais décidé, écoute bien l'idée un peu farfelue, je partais à Montréal et donc j'avais décidé de faire un podcast de bruit ambiant.
Ouais.
où je passerais mon temps à enregistrer des bruits de la ville et à les partager.
Tu voulais faire de l'ASMR à Montréal, en fait.
Ouais, c'est ça. Et
Ouais.
donc, en fait, ça j'en ai fait quatre. Et puis, finalement, je me suis perdu. Ça revenait, enfin, ça ressemblait pas vraiment à grand-chose. Donc, j'ai laissé tomber. Puis, je me suis relancé dans une deuxième idée, toujours de ce que j'ai, toujours de faire un résumé de la semaine. Mais vraiment le truc un petit peu égocentrique où je faisais un résumé de ce qui s'était passé sur mon blog de la semaine. Autant dire que ça n'a pas fonctionné. Puis j'ai laissé tomber, mais c'est toujours un format qui m'a plu. Et en fait, là, ce qui a relancé un petit peu la machine, c'est la vague des streetcasts qui a été lancée par Guillaume et Matt. Et où je me suis dit, ben oui, tiens, allons-y, gaiement, je me lance dans un format d'enregistrement audio où je me pose pas de questions et j'ai pas de contraintes. Donc si j'ai un truc à dire, je le dis. Si j'ai pas de truc à dire, c'est pas grave. Et en fait, j'y ai pris goût. Et je me suis dit, bah, tiens, si je lançais un vrai podcast quand même avec une régularité, une thématique, ça me tend très bien. Mais quelle thématique? Parce que voilà, oui, je suis passionné de tech et j'aime bien en parler. Mais d'autres gens le font très bien aussi. Je pense à Patrick Béja et notamment à Matt avec Tech Café. Et je me suis dit, je veux pas être un énième lecteur de news. Même si eux le font très bien, je veux pas leur piquer leur concept, je veux faire quelque chose de. Et je réfléchissais, je me dis, tiens, ben, il n'y a pas réellement de. Ben, comme tu l'as dit, contextualisons, je suis un grand, grand fan d'Apple et utilisateur d'Apple depuis très longtemps. Et je me suis dit, il n'y a pas de podcast francophone sur le sujet. Et donc, je vais faire un podcast qui va être lié à l'actualité Apple, où je vais parler de ça toutes les semaines, je vais faire un briefing de l'actualité Apple. Et j'interviewerai une personne sur son setup Apple pour qu'on parle un peu de notre passion commune. J'en ai parlé un petit peu avec Mathieu qui me disait, oui, ça tombe bien, et Guillaume, ça tombe bien, il n'y a pas vraiment de créneau pour le moment, donc ça peut être une bonne occasion de te faire un peu une niche et de développer un contenu qui n'existe pas vraiment. Ben, je suis vendu, partons-y. Et donc je suis parti, la flamme au fusil, la fleur au fusil en me disant, bah, je vais faire un podcast toutes les semaines, tous les lundis, avec des news, une interview, etc. Puis j'avais oublié que j'avais une fille, que c'était pas jouable, et un boulot. Et donc en fait là, je suis revenu un petit peu. Et en fait, pour le moment, je me focus sur l'interview parce que le problème, c'est que si tu vois là-bas, j'avais décidé de faire un format de 20 minutes où je faisais 10 minutes de news et 10 minutes d'interview. Et en fait, 10 minutes d'interview, ça me frustre parce que ça veut dire que je pose mes questions, je laisse pas les gens répondre et j'interagis pas. Et je voulais pas. Et donc finalement, en fait, je me suis rendu compte que les news, c'était un contenu qui était un peu périssable, pardon.
Ouais.
Donc j'ai un peu laissé tomber ça en me focalisant sur l'interview. Donc maintenant, depuis trois épisodes, on se concentre sur l'invité. Et donc j'invite une personne pendant une demi-heure, trois quarts d'heure maximum, où on parle de ses premières expériences avec l'univers Apple, du pourquoi elle y est, de ce qui lui plaît, du matériel qu'il a. Enfin, tu vois, c'est des sujets qui plaisent un peu. Et je m'éclate pas mal. Et donc voilà comment est né Traitez-nous de fanboy.
Oui, alors comme tu dis, en plus, c'est vrai qu'il y a quelques podcasts sur l'univers, hein, Apple, mais vraiment, c'est vrai qu'en francophonie, on est vraiment très léger par rapport au milieu américain où il y a des trucs qui sont. Puis alors vraiment, et je le dis, hein, pour ceux qui pensent que t'es fanboy vraiment dedans, je trouve qu'en fait dans les podcasts américains, il y a des trucs qui sont encore pires que ça, quoi. Ils voient même pas ce qu'il y a à l'extérieur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Où ils sont à décortiquer la moindre fonction d'un iPhone. Je pense à Mac Stories, je pense à toute cette clique-là de podcasteurs, de blogueurs. Enfin, je sais même pas parce qu'ils ont tellement de support, etc. Que à la limite, t'es presque léger, tu vois. Moi, j'avais trouvé dans le côté fan, tu vois.
Ouais. Après, le titre Traitez-nous de fanboy, je l'ai choisi, mais un peu grâce à Guillaume. On en a discuté un petit peu. Et en fait, je voulais un truc qui marque, tu vois.
Ouais.
Pour bien montrer, l'objectif, c'était de montrer qu'on n'est pas là pour être objectif, on est là pour parler d'un truc qui nous plaît, qu'on aime. Et que la base d'une passion, c'est justement d'être totalement irrationnel, tu vois. Après, évidemment, en étant passionné par la tech, en testant d'autres produits, ben, j'ai une certaine objectivité. Mais je voulais dès le départ qu'on puisse plonger un peu dans le truc et de se dire, voilà, on est là pour. Être des fanboys pour se faire un kiff, pour dire qu'Apple c'est bien, qu'on adore et que si on veut troller un peu, on y aille. Mais bon enfant, mais c'est clair que je me considère comme un passionné d'Apple, mais pas comme un fanboy. Enfin voilà, je sais reconnaître quand la concurrence fait mieux.
Ouais.
Je sais reconnaître, enfin par exemple, j'ai regardé la Google I/O. Siri a pris une rame dans sa tronche, quelque chose de phénoménal, parce que le Google Assistant est à des années-lumière devant, et je sais le reconnaître, mais voilà, je reste passionné par les produits Apple, je reste passionné par la marque. D'ailleurs, je sais pas si t'as suivi mes stories, mais dans mon garage, j'ai un cimetière d'ordinateurs, tous fonctionnels d'ailleurs, qui vont du premier iMac d'il y a 20 ans, un Power G4, un vieux Mac Pro, enfin, tu vois.
Ouais.
J'ai une passion pour ça et j'avais envie d'en parler. Et je me suis dit, c'est l'occasion de l'interview, mais c'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas dans le fanboyisme aveugle, on s'intéresse un peu à ce qui se fait ailleurs. Et je pense que ça fait partie un peu du charme parce que on aurait vite fait le tour si j'interviewais que des gens qui sont focus complètement dans l'écosystème Apple et qui sont prêts à dénigrer tout le reste, même s'il restait meilleur que ce que fait Apple pour le moment, on aurait vite fait le tour et ça aurait été vite chiant. Ça m'a pas empêché de me faire engueuler, de me faire traiter de fanboy sur Twitter, etc. Mais,
C'est le charme de Twitter.
Voilà, c'est ça, ça fait partie de Twitter. Mais c'est clair que si tu prends, par exemple, moi je suis un grand fan de Sean Blanc, c'est le gars qui est derrière de Suite Setup. T'as l'impression que ce type ne s'intéresse pas. Enfin, c'est pas qu'il s'intéresse pas, c'est un mec qui est branché, mais voilà, lui, il a décidé que son univers c'était l'écosystème Apple et il ne teste même pas le reste.
Ouais, mais il a une grande stabilité dans ses outils, ouais. Il déroge pas à ses outils, quoi, en fait.
Ce mec m'impressionne, quoi. Le gars décide que quand Ulysse, l'application de rédaction sort, le gars la teste en tant que fan, décide que c'est son outil de travail. Ça fait 4 ans que c'est son outil de travail, le mec ne déroge pas à la règle, je suis impressionné parce que je suis incapable de faire ça.
Ouais.
Et d'ailleurs, ceux qui suivent mon podcast, donc pas le traité de notre fanboy, mais mon streetcast, parfois les mecs deviennent un peu fous parce que d'une semaine à l'autre, je change d'avis, quoi.
Mais c'est un régal. Moi, je le dis. Puis en plus, si on met ton compte Twitter en parallèle, l'autre jour, je rigolais parce que quand tu disais, oulala, Apple a du mal à, comment, je sais pas comment t'as dit ça. Enfin, Apple doit avoir peur ou je sais pas quoi, ou ils sont vraiment à des années-lumière par rapport à Android, ouais, par rapport à ça. Ouais. Et je me suis dit, ouais, puis de toute façon, dans le prochain épisode, il va nous dire que de toute façon, il adore son iPhone et que...
Ah, mais en le tweetant, je l'ai tweeté de mon iPhone en me disant, j'aime foncièrement mon iPhone. Mais voilà, par exemple, quand je vois la Google I.O., si je me laisse faire, je vire le Mac, je vire l'iPhone, je prends un Pixel et un Pixelbook, parce que la technologie me passionne, mais, et oui, je le reconnais, je change d'avis comme de chemise, je peux une semaine migrer tous mes mails sur Gmail, puis me rendre compte que finalement, non, j'en ai rien à foutre, et de revenir. Et au début, je combattais ça. Et je me disais, bah non, il faut que tu vois, essayer de trouver justement une stabilité à la chaîne blanc. Et puis à un moment, je me suis dit, tu sais quoi, rien à faire. Si les gens me suivent, c'est qu'ils me connaissent. S'ils me connaissent, c'est qu'ils continuent à me suivre, c'est qu'ils aiment bien ces lire là. Et donc, tant pis, voilà, j'y vais. Et tant pis si parfois je perds un temps inconsidérable à changer d'outil et me rendre compte que mes workflows ne suivent pas forcément. Mais voilà, je me dis, j'ai plus envie de me battre contre ma nature. Voilà, je peux te dire que mon iPhone est le meilleur téléphone du monde en te le disant depuis un Huawei P23 parce que j'avais envie de le tester. Je suis invité à une conférence pour le lancement d'un nouveau LG parce que on m'a invité et que je me suis dit, c'est l'occasion de faire une conférence de lancement, j'ai jamais fait. Mais voilà, je vais peut-être live tweeter de mon iPhone. Enfin, tu vois, je me prends plus la tête, c'est comme ça et voilà.
Par rapport à ton podcast, comment tu le, sur quoi tu, alors comment t'enregistres et quelle préparation tu as de ton podcast?
Alors le streetcast, il y a zéro préparation, c'est au feeling. J'ai un sujet, je prends l'iPhone, je branche le casque, j'enregistre à l'arrache. Le traité de fanboy là, c'est il y a un peu plus de préparation. Donc en fait non, il y en a pas vraiment. En fait j'ai un fil conducteur de questions. J'ai plus ou moins 15 questions qui permettent d'alimenter le débat, qui sont plus ou moins pareilles pour tout le monde. Et en fonction de ça, ben voilà, j'ai un fil conducteur un peu vague et on y va un peu comme on fait maintenant. On a des thématiques qu'on veut aborder et on y va au feeling parce que je pense que c'est ce qui est le plus agréable dans les interviews, dans les podcasts d'interview, c'est de laisser parler les gens et de suivre un peu le mouvement du podcast et de voir un peu comment où les gens m'amènent et en fonction de où ils m'amènent, mon objectif c'est pas forcément de les ramener sur mon fil conducteur. Si on part à un moment vers tel sujet et que ça me plaît bien et que je pense que c'est intéressant, on reste dans ce sujet là Je suis un grand fan de Nouvelle École par exemple, tu vois ce podcast,
ouais.
Et lui fait pareil, lui a un fil conducteur de questions, mais si à un moment son invité part dans un délire qui est intéressant, il va pas le freiner, le ramener absolument sur, et c'est un peu mon mon film, enfin ma façon de fonctionner maintenant que je fais plus d'actu, parce qu'avant il y avait tout un travail de veille et de traitement de la news et de qui prenait un temps de fou. C'est un, honnêtement, je quand je vois le travail que Patrick Béja ou que Guillaume peut faire avec des cafés, les gars, respect, parce que ça demande un temps de préparation qui est dingue.
Alors c'est clair, moi je sais que j'ai quelques épisodes actu hein, sur votre coach web, ouais. Et ils me prennent un temps, mais il y a des trucs, je me dis mais c'est pas possible si je vais faire ça toutes les semaines, alors qu'il y a des épisodes où et puis même quand j'étais en quotidien c'était encore pire. Il y a des épisodes, je me mettais devant le micro et puis je pouvais faire 3 quarts d'heure sans préparation. Alors que quand t'es dans de l'actu, c'est juste le truc qui est pas impossible. Mais on remarque que l'interview aussi, hein, c'est pas finalement à caler, et c'est pas si simple que ça.
Moi, le plus gros problème que j'ai avec l'interview, en fait, c'est d'arriver à gérer le planning et de trouver, tu vois, et de trouver du temps à enregistrer avec les gens, parce que voilà, ça prend quand même du temps. Et mais au niveau du fil conducteur, comme j'ai une thématique assez précise et assez ciblée, toi le problème c'est que c'est votre coach web, c'est ultra vague, tu parles de tout. Moi mon interview elle aurait toujours orienté pareil, on est là pour parler d'Apple et de l'expérience que mon invité a avec cette marque là. Et donc mon fil conducteur est assez fixe en fait, je vais dire mes questions sont plus ou moins toujours les mêmes et la discussion est plus ou moins toujours identique. Ça dépend un peu, mais je veux dire, mon fil conducteur, que toi, c'est très vague. Enfin, tu touches à tout, en fait.
Ouais, donc, je touche à tout, ouais. Moi, du moment que c'est la communication en ligne, je touche à tout.
C'est ça. Alors, donc, forcément, toi, chaque interview demande une préparation que moi, ben pas, j'ai mes 15 questions. Mm. On part avec ça et puis j'improvise en cours de route, quoi.
Alors, en plus, tu crois pas si bien dire parce que j'ai ma liste d'invités que je voudrais avoir. Donc, j'en avais un petit peu parlé en off, hein, en disant, je vais faire des épisodes spécifiques au podcast, hein, sur lancer du podcast. C'est pour ça aussi qu'on aborde un peu la thématique. Mm. Et puis, j'ai dans l'idée aussi d'inviter quelques influenceuses, etc. Donc, j'ai déjà lancé les invitations. J'ai déjà leurs accords à certains, certaines, etc. Et bah maintenant il reste à trouver un calage. Alors je donne un exemple qui est très bête. J'avais prévu un enregistrement avec Guillaume Vendée à une époque, qui arrivait on l'avait prévu le lendemain de la naissance de ma fille. Donc bon, tu comprends que c'était annulé. On avait prévu un autre épisode aussi avec un journaliste local cette nuit-là, ça avait été un petit peu cata. Je lui dis, écoute, je reste à la maison parce que là, ça va pas le faire. Et donc, ça fait un mois et demi qu'on doit repositionner ça. Mmh. Et puis, avec les influenceurs, influenceuses, j'ai un autre problème, c'est qu'ils sont toujours en voyage à droite, à gauche. Ouais. Et donc, faut arriver à se caler. Et en fait, je me suis fait une règle un petit peu, c'est de pas enregistrer le soir, tu vois, ou pas trop tard. Parce que hier, sur mon compte, j'ai dit ça sur Twitter, mais mon objectif, c'est de couper les écrans à 21h30 désormais. Donc, ce qui est incompatible avec l'enregistrement nocturne. Et donc, voilà, ça fait partie des espèces de réglages. Mais bon, autant le dire, hein, on rentre un peu dans les coulisses. Mais je trouve que c'est ce qui est intéressant dans le podcast, en fait. C'est qu'on a une liberté qu'on n'a pas ailleurs. Alors, moi, je sais pas si t'as déjà fait de la radio, t'as une formation de journaliste. Ouais. Donc tu vois à peu près ce que c'est. Je suis extrêmement frustré les quelques fois où j'ai fait de la radio, j'ai fait de la web radio, de la web radio mais qui se faisait comme de la radio. J'étais invité sur des chroniques radio aussi, tu vois, sur des France Bleu, des choses comme ça. Et je suis extrêmement frustré par ces médias où c'est décompté à la seconde, ou si tu dois me reparler 3 minutes 32, c'est 3 minutes 32 puis il te coupe après, ou il y a toujours un mec qui te fait des signes, etc. Là, j'imagine pas si on avait quelqu'un, tu vois, en train de faire les signes, il disait, dis donc, ça fait 1h20 que t'enregistres.
Il devient fou.
Il deviendrait fou. Il dirait, mais comment je vais rentrer ça dans ma grille? Et là, franchement, on a personne qui va nous le dire. Donc, je trouve que c'est un des gros avantages du podcast et je comprends pourquoi t'es sur le côté interview, ça peut pousser. Et puis, il y a plein d'autres, j'écoutais des podcasts l'autre jour qui disaient la même chose. Hein. Génération Do It Yourself, je sais pas si t'as écouté, où lui, il est coupé en deux, mais il a des trucs qui durent 2 heures d'interview, en fait.
Ah ouais, moi j'écoute l'ABC des podcasts et elles, tant qu'elles ont des trucs à dire, elles causent.
Ouais.
Et donc, parfois tu te retrouves avec une émission qui fait 1h10 et parfois elles ont fait la dernière fois, elles en ont fait une, ça a duré 3h30. Tu sais. Ok. Et donc voilà, ouais, c'est ça qui est gay dans le podcast, c'est que tu fais un peu comme t'as envie. Enfin, dans le podcast indépendant, parce qu'après, t'as le podcast où on te retransfère de l'émission de radio. Mmh. Et donc là, ils sont sur un canevas bien précis. Mais nous, dans notre façon de faire le podcast, on fait un peu comme on a envie. Et c'est ça qui est gai, c'est ça que j'aime bien. C'est l'interview libre où, ben voilà, t'as un fil conducteur, mais tu te prives pas de dépasser, de changer de sujet, de partir sur une thématique. d'improviser un peu. Et je pense que c'est ce qui plaît aux gens, justement, c'est le côté un peu naturel de la chose. Où, moi, c'est ce que j'ai toujours quand j'écoute les podcasts d'interview ou même ton podcast, etc. C'est que j'ai l'impression d'être dans une discussion, tu vois.
Ouais.
J'ai l'impression d'entendre des potes qui discutent et j'aime bien ce côté naturel qui est agréable. C'est que tu as l'impression d'être assis à table avec les gens et d'écouter leurs discussions. Que t'as pas du tout en radio, ou là en radio, ben, tu sais qu'il y a un format, c'est un format bien précis. Et voilà, ils ont leurs contraintes, je leur en veux pas du tout, mais c'est ce que j'aime dans le podcast, c'est que t'es tranquille, quoi. J'écoutais le dernier rendez-vous T avec Cédric, avec Patrick Béja et Cédric Ingrand. Mmh. Et ben, tu sens que c'est vraiment. T'as l'impression d'avoir deux potes passionnés de tech qui sont là pour débriefer l'actu et de faire partie de ces discussions. Et je me surprends parfois quand je suis en voiture à écouter ça, que parfois j'interagis avec le podcast alors que ils m'entendent pas, tu vois. Mais par exemple, la dernière fois, ils buguaient sur le nom d'un service web qu'ils n'arrivent pas à retrouver le nom. Et j'avais envie de leur dire, mais les mecs, c'est ça. Enfin, tu vois,
ouais.
Mais après, tu te rends compte que t'es dans la voiture et qu'ils t'entendent pas. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté un petit peu naturel et un peu débridé où voilà, on parle de ce qu'on a envie, on n'a pas de contraintes. On a personne pour nous dire quoi faire, quand s'arrêter, quand parler, quand. Et c'est ça qui est cool, quoi.
Ouais. Bon, et ben, ça fait un joli mot de la fin, je trouve. Hein, une belle conclusion à cet épisode qu'on va quand même finir par arrêter, hein, parce que.
Je pense. Hein,
et puis.
Une heure et demie, c'est pas mal, ouais.
Puis on a nos occupations diverses et variées. Pour finir, donc on l'a un petit peu dit, mais où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet?
Ben, le plus simple, c'est de taper Thibaut avec 2D à la fin sur Google et vous retrouverez mon blog, mon Instagram, mon Twitter et ma page Facebook, mais ça je vous le conseille pas parce qu'il se passe rien. Et donc c'est Thibaut avec 2D.be le blog et @Thibaut avec 2D sur Twitter, comme je viens de le dire en fait.
Ouais. Et sur Instagram, méfiez-vous, parce que t'as un point entre le Thib et
ouais,
le O.
Ouais, parce que le Thibaut avec 2D était pris, donc j'ai mis un point entre le Thib et le O.
Ouais, et moi je crois que je suivais l'autre en fait. Je sais pas pourquoi. Et parce que l'autre a un compte, mais qui a 49 abonnés, dont moi qui étais abonné, donc je me suis désabonné, je me suis revenu sur ton compte. Voilà. Donc méfiez-vous, mais de toute façon, je mettrai tous les liens dans les notes de l'émission. Quoi dire d'autre? T'as un petit truc à rajouter?
Non, simplement merci de m'avoir invité, c'est très cool.
Bah merci à toi. Hein. Voilà, c'était une discussion passionnée autour de la photo, les services, Instagram, le podcast. Moi, en conclusion, je dirais, hein, parce que c'est un petit peu la conclusion, faites comme vous le sentez. Je sais pas si t'es d'accord
exact.
Avec. Hein. C'est du bon contenu, c'est du contenu qui nous ressemble. Essayons pas d'être ceux qui ne nous sommes. Oh là là, j'arrivais pas à le dire. Qui nous ne sommes pas, ça se dit, ouais, c'est bon.
Ouais.
Ouais. N'essayons pas d'être des copies des diverses influenceurs, gros youtubeurs ou quoi que ce soit. Essayons de faire ce qui nous plaît. Et je pense, hein, moi c'est mon sentiment. De toute façon, les gens le sentent. J'ai souvent parlé d'authenticité sur ce podcast, mais je crois que c'est là en fait, hein, le truc à retenir. Si vous avez envie de mettre 5 photos de smartphone sur votre compte Instagram, eh ben faites comme Thibaut. Et faites-le, hein.
Exactement. Faites ce que vous avez envie, quand vous avez envie, ça finira par fonctionner.
Voilà. Allez, sur ce, ben, on va clôturer cet épisode. Alors, je vous remercie tous et toutes d'écouter. Je remercie, ben, les patrons qui, comme Thibaut, contribuent à la vie de ce podcast. On se donne rendez-vous sur les divers réseaux sociaux. Comme je le disais l'autre jour, Facebook un peu moins. Ne vous soyez pas surpris de moins me trouver sur Facebook. C'est pas pour des questions de. J'ai peur qu'ils me prennent mes données parce que là j'ai aucune illusion là-dessus. Hein. Sincèrement, ça sert à rien d'essayer de se protéger de ça. C'est juste que j'applique mes propres conseils et je me concentre sur mon propre écosystème, mes propres plateformes. Voilà, je vais plutôt donner un grand coup à partir maintenant sur la partie forum. Club.votrecoachweb.com. Mais je suis toujours sur Instagram, sur Twitter. Sur Facebook aussi, hein, d'une manière ou d'une autre. Et puis, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao Thibaut, merci à toi et à bientôt à tous les auditeurs. Ciao, ciao.
Salut.